Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Marvin? Harry?
Mais pourquoi t'as retiré tes pompes?
Et pourquoi t'es déguisé en poulet?
Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Et aujourd'hui, épisode spécial puisque épisode de Noël. À côté de moi, Guillaume et Aurélien, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça roule là.
Est-ce que vous avez été sage cette année?
Ça va.
Vous avez été sage?
Je sais pas trop.
À partir de quel âge ta mère arrête de te punir? Parce que il y a toujours un moment comme ça.
À partir de quel âge on t'arrête de poser la question, quoi?
Oui,
à 36 ans, on dit t'as été sage cette année?
C'est pour ça que je te pose la question, tu vois. Mais à quel moment ta mère elle peut plus te punir? Tu sais, il y a un âge comme ça où elle a le droit de te punir et puis du jour au lendemain c'est terminé, quoi.
Bah, c'est l'âge où elle arrête de t'engueuler. Il y a un moment où elle t'engueule plus. Elle peut plus t'engueuler ta mère.
Ouais. Ma mère, elle continue. Bah, parfois ça peut lui arriver de m'engueuler, ouais.
Ta mère, elle t'engueule?
Je sais pas, mettons, je prends la tête sur un truc et m'engueule.
Mais enfin!
Yes, JB n'a jamais coupé le cordon!
Non, personne se fait engueuler par sa mère ici, non?
Bah, non.
Si, ça m'arrive.
Franchement, arrêtez là, allez, un petit peu là, s'il vous plaît.
Un peu, quoi.
C'est moi qui engueule ma mère, mais.
Ah oui, c'est toi. Ah oui, maintenant c'est l'inverse.
On a changé les rôles.
Ah oui, c'est un autre délire. Aujourd'hui, pour cet épisode qui sent bon la neige, le sapin et la bûche, nous recevons deux personnes que j'aime beaucoup, Laura Felpin et Anna Apter. Salut.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Super bien. Alors, un peu malade, mais est-ce que c'est pas l'esprit de Noël?
Ouais, un petit peu, ça met de l'ambiance.
Voilà.
Ça met l'ambiance un petit peu. Anna, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis Anna Apter. Je suis comédienne, auteure. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai été illustratrice dans une autre vie. Et aujourd'hui, je fais de la comédie.
Très bien. Et toi, Laura?
Eh bien, je suis Laura Felpin, poisson ascendant scorpion. Qu'est-ce que je peux dire?
Ah, t'as galéré, t'as balancé la balle, mais il n'y avait pas la suite.
Ça se passe là, il faut faire semblant que t'es hyper premier degré. Je suis née, non je rigole, je suis comédienne, auteure et puis j'officie depuis la rentrée à Quotidien, petite émission.
Moi et au voilà. Point Quotidien, je sais pas.
Anna fait maintenant des services chez Au Pain Quotidien.
Voilà, voilà. Si vous avez besoin d'un latte, je serai là pour vous.
Jadis, nous avons été un duo avec Anna.
Ouais, jadis.
Feu le duo,
Anna et Laura.
Et voilà, on avait bossé un peu chez Golden Moustache et tout, et nous voici.
Et vous aviez une chaîne YouTube?
Alors, on a pas mis grand-chose.
Fois, ouais.
Non, on D'accord. a surtout.
C'est sympa de le dire.
On a surtout fait des trucs sur Golden Moustache.
Ok, ouais. Oui, moi, c'est là que je vous ai découvert.
Découvert.
Je l'avais déjà dit. Découvert, oui, pardon. Oh là là, ça fuit.
C'est
pas trop l'esprit de Noël, mais bon, pourquoi pas, on y va à fond. non, je vous avais découverte via le sketch de la. On peut appeler ce sketch de la police, non?
Bah, ce sketch à la base, excusez-moi, on va parler de ce titre.
Tu
on
l'as voulait très
l'appeler.
Mal vendu, là,
par contre. Très très mal
on
vendu.
Voulait l'appeler Two Girls One Cop.
C'était
quand même génial.
Pas mal, pas mal.
Ouais. Aurélien Prévost, qui ouais. Voilà, entendra peut-être.
Elle
ce
balance
podcast.
Des noms, on dirait.
Ouais,
on nous a refusé.
Pas trop l'esprit de Noël, encore une fois.
Il disait que les gens n'avaient pas la ref, sauf que Flick and Games, voilà, tu vois, c'est le nom et personne ne l'a jamais.
Ah,
donc tout le monde dit le sketch avec les flics. C'est
attends,
ça que tu voulais dire.
Et même moi, quand je dois parler de ce sketch, je dis, tu sais, le sketch qu'on a fait avec les flics, alors que je pourrais dire Flicks and Games,
ouais.
Mais non.
Donc Aurélien Prévost, encore une fois.
Aurélien Prévost, qui sera le prochain invité de ce podcast. J'espère qu'il pourra lâcher aussi plein de dossiers sur vous quand ce sera son tour. Alors, il y a deux semaines, c'est Aurélien, notre Aurélien à nous,
ouais.
Aurélien Chapuis,
ouais.
Qui a choisi le film du jour. Il s'est baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et il a cliqué sur « À la maison », « Bidonné »,« Heureux », »,« Amérique du Nord 90 ».
Bidonné.
Et tes indices...
Bidonné toujours.
Oui, il a envie de se bidonner en permanence. Et tes indices, c'était « Luge »,« Pelle » et...
« Migale ».
Migale.
Ah.
C'était donc très facile à trouver. Il s'agit du film culte « Maman, j'ai raté l'avion ».« Maman, j'ai raté l'avion », qui
j'adore.
Est un peu l'équivalent ciné du titre « All I Want for Christmas » de Mariah Carey. C'est vraiment un truc qui revient chaque année.
Un classique.
C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. J'apprécie la médiation, vraiment la compare.
Mais oui, toujours. Tu veux. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce film « Home Alone » en anglais, sorti en 1990.
C'est quand même beaucoup plus classe le titre en anglais que le titre en français.
Ah, je sais pas, j'aime bien les deux, moi.
« Maman, j'ai raté l'avion ».
J'ai raté l'avion. Il y a une époque « Maman, j'ai raté l'avion », »,« Maman,
ouais, j'ai rétréci les gosses ». »,«
Maman, j'ai rétréci les gosses », etc.
Ouais, c'est même,
oui, mais du coup, on dirait que c'est la même...
Je l'aurais appelé « Kevin n'est pas là ».
Ouais, ça aurait fait très peu de vues.
C'est le very bad de l'époque, tu sais, depuis après ils ont fait very bad.
On aurait peut-être demandé à Aurélien Prévost.
Mais du coup, en français, on dirait que c'est la suite de Maman, j'ai rétréci les gosses ou des trucs comme ça.
Ouais, il joue sur.
J'aimais bien ces longs titres, moi, je trouvais ça.
Ah ouais, c'était pas mal.
Je trouvais ça marrant.
Kevin, il était pas là et en même temps, il a pas pu faire parce qu'il y avait des pièges. C'est pas mal ça.
C'est un bon titre aussi, effectivement.
Yes.
Donc, je disais que nous allons parler de ce film, Alone en anglais, sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus. Alors, on parle souvent de Spielberg, Zemeckis, Richard Donner ou encore Joe Dante, mais dans cette bande, il y a aussi Chris Columbus, qui est quand même très sous-coté. Peu de gens le connaissent, mais du cerveau de ce type sont sortis les Gremlins et les Goonies. Et parmi ses réalisations, on a quand même Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, donc Madame Doubtfire, L'homme bicentenaire ou encore les deux premiers Harry Potter.
Et ma meilleure ennemie. Putain.
Ma meilleure ennemie?
Julia Roberts et Suzanne Sarandon, c'est lui, je crois. Et ça, c'est un bête
c'est
de
Chris
film.
Columbus, ça?
Ouais, je crois. Hein.
Mais je ne savais pas. Ouais, c'est à confirmer, mais pourquoi pas.
Ah, je crois que c'est lui. Hein.
Confirmé.
En plus, si tu réfléchis à Mrs. Doubtfire et tout, même céréales, c'est, tu vois que c'est lui.
Puis c'est quand même lui qui a découvert l'Amérique, c'est quand même fou.
Aussi, ça aussi, c'est à confirmer.
En soi.
Nous sommes très calés sur ce podcast.
Oui.
ouais, donc Chris Columbus, qui a découvert l'Amérique, certes, mais qui a aussi produit des films comme La course aux jouets, Super film de Noël, et La nuit au musée. Que des films qui mettent de bonne humeur.
Ah oui, c'est vrai.
Sacré Chris.
Ça met de bonne humeur, ces films. Mais concentrons-nous sur le film du jour, Maman, j'ai raté l'avion, donc sorti en 1990 et qui raconte l'histoire du petit Kevin McAllister, qui est oublié par sa famille et qui se retrouve seul dans sa grande maison qu'il devra protéger suite à l'intrusion de deux cambrioleurs. La question traditionnelle dans We Love TFTC, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec toi, Laura.
Oh, putain, je pensais que j'allais avoir de la marge.
Et ma je vais commencer avec toi, spi. Anna.
Mon premier souvenir de...
De Maman, j'ai raté l'avion.
Oh là là. Bah, déjà,
je vais commencer avec toi, Guillaume.
Yeah. Et ben, j'ai réfléchi, puisque je connais l'émission. Et, non, mais alors, j'ai un premier souvenir, mais qui est parti en flamme hier soir, figurez-vous.
Ah oui.
Et en fait, j'étais persuadé d'avoir vu Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, en fait, je vais raconter ma vie. Mon père travaillait le 24 au soir. Donc, okay. Parfois, à Noël, bon, bah, les réveillons, bah, on attendait le 25 au matin, voilà, bref.
Oh, et avec ma mère. Il y a eu un peu de tristesse dans cette voie.
Ça, c'est l'esprit de Noël, parce que c'est un peu triste, on a envie que ça se passe bien.
Et ben, figurez-vous que, avec ma mère, elle nous a emmenés au cinéma le 24 au soir, et on allait voir Maman, j'ai raté l'avion.
Pas mal.
Ah, trop mignon.
Pas mal, tu vois. Donc, moi, je vivais avec, moi et ma sœur, ma mère, on allait voir ça, et puis voilà, on allait se coucher, on attendait le lendemain matin. Et donc, hier, j'envoie un texte à ma sœur, et je lui dis, tu te rappelles, on allait voir Maman, j'ai raté l'avion, le 24 au soir avec maman et tout. Non, pas du tout, non, c'était en journée, il y avait papa et tout. Du coup, j'étais là.
C'était
je me suis dit,
hey,
j'ai une histoire de ouf pour l'intro de l'émission.
C'était trop chiant.
En fait, t'as plus la merde. Je suis allé le voir. Ouais, le premier souvenir, je suis allé le voir un samedi.
C'est tellement.
Ah oui, je sais convention.
Voilà. On a dû attendre la deuxième séance.
Ouais. Et toi, Aurélien?
Moi, c'est devenu rapidement un classique cassette vidéo. Je pense que je l'ai découvert à la télé. Et il y avait surtout une scène que je sais que j'essayais de faire en boucle après. C'était la scène où il passe un film pour faire flipper, en fait, des extraits du film. Il dit casse-toi. Enfin, je sais plus, il y avait une voix un peu d'une âme comme ça. Et moi, j'avais essayé de trouver ma propre scène d'un film à moi. Je pourrais mettre si jamais, genre, je sais pas, ma mère, elle venait toquer. Qu'est-ce que tu fais?
Exact.
Casse-toi tout de suite, je suis pas d'accord pour sortir maintenant. J'avais cherché,
je te laisse
10
secondes.
Ouais, voilà,
et garde la monnaie.
J'adorais cette scène. Après, ça tirait partout et tout. Donc j'avais essayé de trouver. C'est le premier souvenir que j'en avais vraiment.
Moi, j'avais le jeu, enfin, le fameux jouet à l'enregistreur qui change les voix qu'on trouve dans le film. Le Toggle Boy, je crois. Et ça marchait très peu par rapport au film. Mais c'était quand même cool. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, Laura et Anna?
Moi j'ai surtout, je pense que Laura et moi on l'a vu un peu après parce qu'on est quand même beaucoup plus jeunes que vous.
Très offensive
quand même. Hein. Non, en plus c'est faux, je suis pas du tout beaucoup plus jeune que vous.
C'était juste un truc gratos.
Voilà, c'était gratos. Mais ceci dit, je pense que je l'ai quand même vu après, donc je pense en VHS. Donc j'ai quand même l'âge d'avoir vu des VHS. Et je me souviens très bien. Bah pareil, c'était aussi ce truc d'enregistrement.
Ah ouais?
Ouais. Et bizarrement, mais je crois que c'est dans le 2, en fait, la femme au pigeon qui me faisait très peur. Ouais. Je crois que c'est dans le 2. Elle me faisait peur et en même temps il y avait justement cet esprit de Noël un peu comme dans le 1 où c'est le monsieur à la pelle là,
le 1 et le 2 se ressemblent vachement dans le scénario
trame. C'est la même chose sauf qu'ils vont à New York et qu'il y a Donald Trump.
Il y a Trump dedans,
c'est important.
Il y a Trump dans le 2
Ça lui appartient à l'hôtel, je crois, non? C'est pas ça?
C'est ça, je crois que c'est ça.
Et non, surtout, le truc qui m'a marqué c'est que j'étais très très amoureuse de Kevin.
Ah ouais?
Il était vraiment très très beau.
T'es en avance sur son temps, Et bah moi j'étais amoureuse de sa mère.
Non mais d'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis parce qu'à l'époque, alors là du coup je vais parler de vieux, mais il y avait une série que j'adorais qui s'appelait Madame et Servie, j'imagine que vous connaissez. Et en fait tout le monde était très amoureux à l'école d'Alyssa Milano. Et moi j'étais à fond dans Angela Bauer, la mère.
Mais ça se comprend.
Très mature,
dire ouais, très mature.
Tu vois, ambiance.
À l'époque.
Tu prenais pour toi
Danza, quoi. J'étais sur Mona, moi. J'ai sauté une génération.
Très, très mature.
Mona qui était la grand-mère de la série.
Exactement.
Laura, alors.
Écoute, moi j'en ai que des bons souvenirs. J'ai pas un souvenir spécifique, mais je me rappelle de l'avoir toujours vu avec ma sœur, ma grande sœur. Et j'avais un peu une passion aussi pour Kevin, faut le dire.
Ah oui, je savais pas ça.
Ouais, c'est marrant.
Et surtout, j'avais super peur de Joe Pesci. Pesci.
Toi, tu dis Pesci, toi.
Pesci.
Toi, tu dis Pesci.
Joe Pesci. Pesci. Comment
Pesci. Joe Pesci, moi.
Pesci, ouais, Pesci. Joe Pesci. J'ai lu il y a pas longtemps que je sais pas si t'avais prévu de le dire, mais il évitait de croiser. Le petit dans le film parce qu'il avait trop peur de lui, donc il essayait de pas le croiser.
C'est une info que vous pouvez retrouver dans le vidéo store Malanger à la télévision.
Bah voilà.
Peut-être que c'est là.
Mais vous l'avez déjà fait.
Ouais, ouais, déjà fait.
Pardon,
donc c'est pas là en fait. En fait, c'est pas là.
Bah, je suis navrée. Et non, et surtout, l'actrice, la mère, donc c'est Catherine O'Hara, c'est ça ? Non, c'est...
Jolie.
C'est ça ? Et ben, elle est rousse comme ma belle-mère et ça me fascinait. Je me disais, putain, mais ma belle-mère, ça aurait tellement pu être elle, etc. Donc je me suis fait un petit truc, ça n'a jamais fonctionné, mais voilà. Donc c'est un peu mes premiers
Est-ce
souvenirs.
Est-ce que ta belle-mère aurait eu de quoi se payer
Ma belle-mère ne m'aurait jamais oublié à la maison.
J'avoue, ce voyage, il est incroyable quand même.
Non, mais c'est
à 25
fou.
À Paname.
Et ils sont en première.
Ils sont que
et en fait, il paraît que le mec qui a écrit, c'est comment
C'est John Hughes.
Christophe Colomb.
Ouais, John Hughes.
Il était hyper angoissé pendant un voyage avec ses gosses.
Ouais.
Et il a écrit le film en genre 9 jours. Et il s'est dit, c'est parti du principe qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se serait passé si là j'avais oublié un de mes gosses à la maison.
Il y a deux versions.
Il y a deux versions.
Ah ouais.
Il y a une version, je crois.
Il y a une version.
Moi, je crois j'y vais.
Donc, t'es en train de dire que c'est faux, c'est ça?
Ah, dis-toi, la source, c'est un peu.
Non, en vrai. Je suis plus sourcé, hein, j'ai lu.
En vrai, si John Hughes a eu l'idée de ce film, c'est parce qu'il tournait un autre film auparavant avec John Candy et Macaulay Culkin. C'était le premier film de Macaulay Culkin. Et dans ce film, on voit Macaulay Culkin qui surveille la fente de la boîte à lettres parce qu'il a peur qu'il y ait des cambrioleurs. C'est juste une petite scène comme ça dans le film. Mais en voyant cette scène, John Hughes, qui réalisait ce film, s'est dit attends, mais c'est trop bien, en fait, on pourrait faire un film de cette scène. Le mec, le petit, est oublié par ses parents et puis il doit protéger la maison des cambrioleurs.
Ah ouais.
Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Mais peut-être qu'après, ton histoire d'avion, ça a été rajouté.
Fils, en plus.
Ouais, peut-être qu'en plus.
Ok.
Écoute, je propose un arrangement et que les deux infos soient bonnes. Écoute,
ouais, moi je pense que c'est un entre-deux.
Le truc intéressant dans le film, c'est le fait qu'il oublie et après le fait qu'il se batte avec des cambrioleurs.
Exactement. Et sinon, moi, pour mes souvenirs, le film, en gros, c'est pour moi vraiment une sorte de. C'est un des films good movie extrême. Tu vois.
Ouais.
Tu sais, quand tu regardes ce film, t'as envie de faire partie de cette famille. T'as envie de vivre dans cette maison. T'as envie de vivre le même Noël, d'avoir le même sapin.
Ah,
et c'est vraiment un film, quand tu regardes. Bah,
la même baraque, moi.
Mais ça rentre. Je trouve que ça rentre comme Retour vers le futur, etc., dans les films où quand tu tombes dessus, tu le zappes pas.
C'est ça.
Tu vois, il y a des catégories de films comme ça où tu zappes pas.
Y a
tu tombes dessus, tu fais bon, allez.
Ouais.
Bah alors on se dit qu'il y a un gros esprit de Noël, mais genre au début du film, ils sont tous horribles les uns avec les autres. Ils s'insultent.
Mais tu vois, il y a quand même ce truc où.
Ouais, mais c'est Noël. Hein.
Noël, c'est la famille. Tu vois. Il y a toute la famille qui est là et tout machin. Tu vois. Donc ça reste un petit peu comme ça. D'ailleurs, en parlant de Noël, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous de Noël?
Ah ouais.
Vaste question.
Bah, la mort du Christ, enfin. Vous êtes complètement con. Hein.
Est-ce que c'est une période que vous aimez, Noël?
Parce
qu'il y en a qui n'aiment pas Noël parfois. Il y en a qui sont là, je déteste cette période.
Moi, j'adore Noël.
Moi, c'est une de mes périodes préférées dans l'année.
Bat de Bat-Égal déteste Noël.
Oui, voilà, Bat
nous l'a dit dans,
dans l'épisode précédent. Il disait qu'il détestait Noël.
Moi, j'adore Noël parce que mes parents sont divorcés depuis très longtemps. Et du coup, je fais toujours Noël, franchement, 6 fois. Et avec plein de gens, et c'est trop bien.
Ça
ouais, moi j'adore. Mais oui, parce que c'est pas.
Trop,
je suis pas c'est pas de la famille trop éloignée à chaque fois. C'est bon, comme mon frère a déjà 9 frères et sœurs, tu vois, il a des cousins, enfin, du coup, j'ai plein de cousins, cousines et tout. Donc c'est toujours hyper convivial. Et c'est toujours des ambiances différentes. Tu vois, ma mère, c'est plus cosy. Mon père, c'est plus la déconne. Voilà, donc on y trouve tout ce qu'on
D'ailleurs,
veut.
D'ailleurs, c'est toujours un aspect de négociation, ça, quand les parents divorcent. Genre, t'auras deux cadeaux. C'est vraiment le premier argument quand les parents divorcent. Et ça marche.
C'est vrai, général, c'est vrai.
En général, ça
ils peuvent bien nous faire de cadeaux, hein, pour ce qu'ils nous ont fait chier, putain.
En parlant de deux cadeaux, petite pensée à tous ceux qui ont, comme moi, un anniversaire très proche de la date de Noël.
Ah, là, ça, c'est
quand les gens ils disent,
pire angoisse.
Allez, ça marche pour les deux.
Pire angoisse.
C'est quand c'est pour les deux. C'est le 29 décembre.
Ça, c'est
c'est vraiment.
Du coup,
vraiment
ils font le 25
proche,
et on fait la fête pour mon année.
Mais attends, du coup, t'avais un cadeau ou deux cadeaux?
Non, alors les parents, ils ont toujours respecté. Par contre, Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils ont fait. Oh ouais, je sais pas si on va se revoir du coup.
Par
bon,
contre,
ça compte
la
canne
de petite fille.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Bon. Mais il y a ce truc aussi d'être né en décembre et il y a une autre date aussi qui est terrible, c'est en été parce que personne vient à ton
anniversaire. Ah, mais c'est. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire parce qu'à la limite, toi, au moins, il y a une réunion pour ton anniversaire. Moi, tout le monde est en vacances, tout le monde s'en bat les couilles.
Tout le monde est au ski en général, ouais.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Et ça, pour vous, ça compte vraiment l'anniversaire?
Non.
Moi, je le fais jamais, mon anniversaire.
Moi, c'est 25
à 36
juillet,
ans, non?
Et j'ai passé 15 ans. À 15 ans, ouais. À avoir personne. J'avais personne. Genre, même pas un coup de fil, tu vois. Genre, ah, excuse-moi. Voilà,
c'est triste,
je
ça. Mais attends.
C'est triste, voilà, voilà.
C'est une terrible révélation, ça.
C'est ce que t'as demandé de dire dans le podcast, putain.
Les amis. Ah, la famille, bien sûr. Mes parents, ils sont là et tout ça.
Mais la mémé, ça compte pas.
Quand tu commences à avoir 15 ans, que t'es un peu ado et que t'as envie que la fille que t'aimais bien, je sais pas, t'envoies un truc, mec. Je recevais des vieilles cartes postales 3 semaines après. Ah, en fait, c'était ton anniversaire. J'étais au Portugal, ouais, bah super.
T'es né quand, toi, Aurélien?
Le 25 juillet, c'est le pire.
Ah, j'avoue, c'est chiant.
Entre le 15 juillet et le 15 août.
Moi, c'est 28 août. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les gens...
Le 28 août, ça commence à être la fin, les gens sont rentrés.
Non, justement, c'est-à-dire que les gens, ils sont... C'est leur dernier jour de vacances, ils n'ont pas du tout envie de savoir quel jour on est, quelle heure il est, etc. Donc ils sont sur off. Et
ouais, mais ils sont encore en train pour aller boire des coups et tout, tu vois.
Ouais, c'est
parce
vrai.
Qu'il y en a
le 29
rentrés.
Décembre, ils disent attends, on va se la coller le 31, on vient de se la coller pour le 25, le 29, tranquille.
Attends, c'est le 29.
29 décembre.
Je pensais que c'était le 22, moi.
Non, non, 29.
Ah ouais, pire que toi.
C'est entre deux, quoi.
C'est entre les deux fêtes.
Entre deux où les gens sont.
Interprète ce signe.
On pensera fort à toi. On ira boire des coups.
Moi, c'est le 11 février et c'est parfait parce que tu chopes ton cadeau de Noël.
Merci, moi, c'est le 26.
Ah bah voilà, tu chopes ton cadeau de Noël et deux mois plus tard. Laura, c'est très bien de quoi je parle. Hein, février, c'est la famille.
Février, c'est trop. La distance est trop longue pour pas qu'on te réoffre un cadeau en fait.
Non, je suis pas poisson.
Ouais,
verso.
Ah. Ouais, c'est verso.
Ah. Bah, allez, se voit, petit tour des signes astrologiques, ça régale. Ouais. Guillaume là-bas, on est quoi?
Capricorne.
Oh putain, trop chiant.
L'élite.
Trop chiant les Capricornes.
Ouais. Allez quoi, trop chiant.
Non, hyper divertissant, mais hyper hyper chiant.
Non, c'est pas les
chiants, mais.
Bah parce que tata voilà.
Tata voilà.
Et toi, Aurélien?
Lion.
Ah, pas mal.
Ok.
J'adore, j'ai aucune connaissance. Bah, moi, poisson, hein. Poisson.
Ah, c'est bien.
Donc, signe d'eau.
Poisson, il se passe rien chez les poissons.
Pardon?
Quand tu regardes les horoscopes, Capricorne, ils disent ah, Capricorne, tu fais attention à ça,
tu vois pourquoi je dis Capricorne? Parce poisson, que regarde comment il a le seum, les gars.
Poisson, tu regardes, ils font ouais, journée, t'as eu. Tranquille. Ce soir, il fait nuit et tout. Tu sais, ils disent rien, l'horoscope.
Ce serait bien qu'on fasse un horoscope ensemble. Poisson, nanana.
Poisson, tranquille.
Capricorne, yaya.
Et toi, Anna, alors, le signe?
Moi, je suis vierge ascendant Lion.
Oh putain.
Mais déjà, elle donne son ascendant. C'est quoi l'histoire des ascendants, déjà?
Allez,
bah, en vieillissant, tu te rapproches de ton ascendant.
Ouais. Il paraît, mais tout ça est une science. Il faudrait s'y connaître beaucoup plus parce qu'en vérité, on rigole, on banalise vachement l'astrologie. Mais en fait, c'était une vraie science à un moment donné.
Ah oui,
c'est juste qu'on ne s'intéresse pas assez, quoi.
La guerre des étoiles, tout ça.
Madame Soleil, tout ça.
Madame Soleil.
Et toi, t'es quoi?
Et toi
Moi, verso.
Ah oui, c'est vrai, putain.
Bah, verso, tu vois, on n'est même pas eu de savoir. Verso, comme étant le signe.
Le plus chiant.
Les signes élus, quand même.
J'ai toujours compris. Verso, c'est donc quelqu'un qui verse de l'eau.
C'est quelqu'un qui verse de l'eau, effectivement.
Mais ah, pour moi, verso et balance, c'est les pires mecs.
Ah ouais, tu crois?
Ils sont là.
Ah, ils disent ça. Mais non, mais ça m'arrive parfois, je rentre chez moi et je fais tété comme ça. Donc je crois qu'elle a pas tort.
Et les vierges, ils font quoi? Les vierges, ils font quoi?
Ils sont plutôt. D'accord.
Les poissons, chacun son petit bruitage.
Bon. Encore une journée de poisson ou quoi? Est-ce que vous avez des anecdotes de réveillon de Noël? Aucune apparemment. Zéro anecdote.
Si.
Attends, je réfléchis.
Des réveillons? Ah non.
Réveillon de Noël, c'est toujours
j'étais
un peu...
J'étais plus sur le jour de Noël, moi.
Bah, une fois, je suis allé voir maman, j'ai raté l'avion.
Moi, c'est marrant parce que je fête pas vraiment Noël, parce que je ne suis pas de cette confession. Et du coup, je fête autre chose, mais
c'est toujours pas du tout tabou.
Oui, du coup, je veux dire,
à une autre fête.
Non,
hein.
Je fête Hanouka.
Je ne pas pour pas.
Et en fait, on m'a toujours posé la question. Ah, mais Hanouka, ça veut dire que en fait, ça dure 8 jours, donc vous avez 8 fois plus de cadeaux, ce qui est complètement faux et ce qui est très chiant parce que moi, j'ai toujours adoré cette période de Noël. J'aurais toujours voulu avoir un sapin de Noël que j'ai jamais eu.
Ah, oh, c'est triste,
et,
putain.
Non, justement. Et du coup, j'ai un peu négocié avec ma famille pour essayer de fêter Noël en même temps parce que sinon on est là comme des cons, on n'a rien à faire. Et puis surtout, il n'y a personne qui te propose de venir à Noël parce que tout le monde est en famille. Donc on fait une sorte de réveillon de Noël qui n'est pas vraiment Noël. Du coup, on a des cadeaux à Noël et à Hanouka. Et l'an dernier...
Ah, donc t'es gagnante en fait.
Belle négociation par contre.
Belle négociation. Non, l'an dernier, ce qui était cool, c'est que j'ai mon petit frère qui était au Canada. Il vivait là-bas et je l'ai fait revenir pour Noël pour avoir un peu l'esprit de Noël.
C'est l'esprit de Noël.
Voilà, personne n'était au courant Et c'était vraiment cool parce que je l'ai caché toute la journée chez moi. Je l'ai fait...
J'ai caché depuis les morts, mais.
Je l'ai caché dans ma chambre. Non, je l'ai caché chez moi. Il est venu de son côté en scooter chez ma grand-mère parce qu'on avait fait ça chez elle.
T'essaies de nous expliquer que t'es la meilleure d'entre nous, en gros.
Exactement. Ah, ouais. Attends, exactement. Ouais. Non, mais voilà.
C'est les vierges.
Non, tu vois, j'ai essayé de recréer l'esprit de Noël alors que je ne fête pas Noël.
C'est, ouais, c'est vrai.
C'est quand même fabuleux.
C'est fabuleux, effectivement.
Voilà. C'est pas un vrai Noël. Hein, puisque
c'est pas un vrai Noël.
Bah ouais, désolé.
Encore une fois, c'est la mort du Christ.
Alors, Aurélien, dans ce film, il y a deux acteurs qui forment un duo hyper complémentaire. Daniel Stern et Joe Pesci.
Oh, ça va, Pesci.
Et qui est les casseurs flotteurs. Et finalement, quand on observe la filmographie de Joe Pesci, c'est assez surprenant de le retrouver dans un film comme ça.
Oui, et en fait, non. Une fois que j'ai étudié la question, c'est pas si étonnant que ça, parce que Joe Pesci a une carrière quand même assez incroyable. La fameuse dent qui brille. Une question pour vous. Qu'est-ce que faisait Joe Pesci même avant d'être dans le divertissement, n'importe lequel, avant d'être acteur, à votre avis?
Prothésiste dentaire.
Presque.
Dentiste. Oh, dentiste.
Non, il était barbier.
Oui, ah, d'accord, mais ce qui a rapport avec les dents.
C'est tellement loin.
Zéro rapport.
C'est
la barbe, c'est
ça
fait
ça
des dents, allez.
Ça reste dans le visage, tu vois. Sa mère avait un business de.
Il était prof, pas loin.
Barberie.
Il était boulanger.
De barberie.
Parce que boulanger, on mange avec les dents.
Ouais, voilà. C'est pareil. Les cheveux, la barbe, c'est proche, je veux dire, il y a quelques centimètres, quoi. Et bref, sa mère avait un business de barbier dans le Bronx. C'est un vrai mec du Bronx, pour le coup.
Putain, stylé.
Et il a été barbier très longtemps. Et en fait, ce qui l'a rapproché du divertissement, c'est que sa vraie passion, c'est la musique. Et au lycée, il était avec un groupe qui est hyper connu. Aux États-Unis, il était avec Frankie Valli et Tommy DeVito au lycée ensemble.
Ah ouais. Les Jersey Boys.
Voilà, exactement. D'ailleurs, dans le film Jersey Boys, donc la comédie musicale dont est tiré le film de Clint Eastwood, il y a un personnage qui est Joe Pesci.
Mais
en
non.
Fait.
Ah
ouais.
Vraiment Joe
Mais
Pesci.
Non.
Si.
Ah parce que juste, je te coupe. En fait, je reviens sur ton histoire de barbier. C'est-à-dire que des mecs sont fait couper la barbe par Joe Pesci, mais ils le savent pas.
Non.
C'est incroyable. Ça.
Il y a encore un petit cas, tu vas voir, c'est un truc de fou. Dans le même genre, je pense qu'il y a des gens, ils vont pas s'en rappeler non plus. Et bref, le groupe Four Seasons, donc les Jersey Boys, ont été créés. Ils se sont rencontrés grâce à Joe Pesci, car c'est Frankie Valli et Tommy DeVito ont rencontré Bob Gaudio, que connaissait Joe Pesci parce qu'il lui faisait la barbe peut-être. Et donc le grand groupe Four Seasons, qui est hyper connu, s'est rencontré grâce à Joe Pesci.
C'est
et
fou.
Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Bah ouais.
Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. Et pour le coup, après, il se met vraiment dans la musique grâce à ses potes et il joue de la guitare dans un groupe qui va être hyper connu aux États-Unis. C'est ça qui est bizarre. Dans les années 60, Joe Eddy and the Starlighters qui sortent un morceau qui s'appelle Peppermint Twist qui devient un tube, genre aux États-Unis.
Un tube.
Et pour rester dans la musique, on oublie, mais notre cher Joe Pesci a sorti 3 albums. À un moment, il a arrêté sa carrière en 1999. Il a sorti 3 albums, dont un album en 98 où il y a un morceau de rap qui s'appelle Wise Guy, produit par les Trackmasters, quand même, les mecs qui bossent avec Puff Daddy notamment.
C'est-à-dire qu'il rappe dessus ?
Il rappe dessus, mec.
Et est-ce que c'est catastrophique ?
Ouais, il reprend Blondie. En
est-ce
fait,
que
il
ça commence
Rapture.
Par sale prof ?
Oh ouais.
Écoute, c'est spécial dédicace, BTC.
C'est presque un rap de Gibouze.
Gibouze.
Non, c'est vrai, c'est le pire surnom. T'associes mon nom à de la bouse.
C'est Gibouze.
C'est comme si je t'appelais Aurélien Merde, quoi. C'est pareil. Exactement la même chose.
Allez, j'ai ripé. Je voulais faire une vanne pour la fin, ça a ripé. Paid with the stash, treat all my bronze like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class, you don't have to ask. Getting everything by flash and cash. Bref, en gros, Joe Pesci, à la base, c'est un musicien. Et en fait, à partir de la fin des années 60, il rencontre Frank Vincent, à ne pas confondre avec Frankie Vincent. Frank Vincent, c'est un super acteur que vous connaissez en tant que second rôle, parce qu'on le voit dans quasiment tous les films de Scorsese. C'est celui qui a toujours un peu la bouche pincée et qui parle en général avec sa cigarette devant sa bouche, là, comme ça. Il parle avec Bob De Niro dans Casino, notamment.
Ah oui, mais personne ne voit autour de ce...
Si.
Il a souvent les cheveux plaqués en arrière, des sourcils très forts, une bouche un peu pointue.
Ah,
comme
oui,
ça.
Oui.
Et en gros, Frank Vincent, c'est le meilleur pote de Joe Pesci.
Oui, c'est vrai.
Une bouche un peu pointue, moi je retiens ça.
Voilà, c'est important, la bouche pointue. Pour le coup, c'est vraiment des potes d'enfance et ils vont monter un stand-up ensemble. En gros, ils vont avoir un duo comique entre 70 et 76 qui s'appelle Vincent and Pecci. Et en gros, ils font un peu comme Abbott et Costello. Et surtout, Dean Martin et Jerry Lewis, qui avaient le même type de show de musical, en fait, à l'époque, est un mélange de stand-up et de comédie chantée et un truc un peu comédie musicale, tu vois. Sauf que ça marchait pas. Ils ont fait un spectacle à Broadway, ça a duré une semaine, et ils ont arrêté. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont réussi à avoir un rôle à deux, leur duo comique, pour jouer dans un film qui s'appelait The Death Collector en 76, mais ça marche pas. Donc Pecci, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans le Bronx et il monte un restaurant. Le Hammy Cheese. Et le Hammy Cheese, il reste dans son restaurant entre 76 et 79 et il habite au-dessus de son resto. Genre, c'est un mec, il a carrément arrêté de penser à la vie même de divertissement, quoi. Et là, arrive ce qu'on connaît tous un petit peu comme le truc marquant.
Il devient en 79, pilote.
Ouais. Il devient pilote de Formule 1. Non, pas du tout. En 79, il y a Scorsese et De Niro qui l'appellent en lui disant « Écoute, ton rôle dans le petit film là, que personne n'a vu, on a trouvé ça exceptionnel. On veut que tu joues le frère de Jack LaMotta pour Raging Bull. »
C'est génial.
Et pourquoi il se retrouve à jouer dans Raging Bull,
le frère. C'est fou cette histoire, ça existe pas.
Il devient le meilleur pote de De Niro. Arrête. Il va jouer dans tous les Scorsese où il y aura des mafieux ensuite, mais il aura toujours ce rôle où on ne sait pas s'il rigole ou s'il rigole pas, parce que c'est ça en fait. C'est un mafieux, enfin un semi-mafieux du monde.
Mais la question que je te pose, c'est est-ce que cette attitude qu'on peut voir dans Raging Bull ou dans ses autres films, il l'avait un petit peu quand il était barbier, tout ça.
Je crois que ouais, parce que c'est un vrai mec du Bronx.
Ah ouais, okay,
tu es un peu des mecs sexuels.
Non, mais pour le coup, tout ce truc un peu de, je sais pas, je récupère les histoires, tu sais, le barbier aux États-Unis, c'est un truc où finalement tous les mecs viennent, et à mon avis, ça devait être celui qui racontait les meilleures histoires. C'était peut-être pas le plus gros gangster, mais il avait, à mon avis, dans son entourage, tout ça quoi. Et pour le coup, il joue après dans Il était une fois en Amérique avec De Niro. Mmh. Il joue dans le seul film de De Niro des années 90, Il était une fois dans le Bronx, où il a un petit rôle aussi. Donc ça devient vraiment le meilleur pote de Scorsese et de De Niro. Mais il n'oublie pas son côté stand-up parce qu'on le retrouve dans Moonwalker, le film de Michael Jackson, où il joue une sorte de proto-manager, Jacques DeLillo, le grand manager.
J'ai aucun souvenir de Joe Pesci dans Moonwalker.
Ah ouais, c'est lui qui joue le méchant en fait. Qui est censé être une blague parce que c'est genre le manager de
mais tu sais que parfois
il joue à la fin de Smooth Criminal.
Parfois je confonds dans mes souvenirs Moonwalker et son fameux clip qu'il a fait avec Marlon Brando parce que c'est un peu la même ambiance.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et bah là, c'est donc il joue le méchant, il joue un méchant vraiment comme un cartoon, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que en gros, il singe, enfin il copie, il parodie le manager de Michael Jackson, et plus tard dans Goodfellas, il va jouer avec le manager de Michael Jackson, qui joue un vrai rôle dans un vrai gangster.
Oh,
dans
c'est trop
métal. Ce sont des infos dignes de Tabs.
Dans Goodfellas,
bravo.
Ce qui est assez fou.
Bravo.
Mais en tout cas, il a toujours eu ce côté comédie qui va se lancer vraiment par un film que je sais, JB, tu adores. T'as vu, j'ai pas dit Jibouz. c'est L'Arme Fatale, L'Arme Fatale 2.
Ah, oui.
C'est à partir de là qu'il a ce fameux second rôle qui est celui de Leo Gates,
oui,
qui arrive en 89.
Comique.
Ouais, complètement. Qui est un rôle de second couteau, blague.
De relou.
Il est là vraiment pour faire les blagues, là où L'Arme Fatale est quand même un film assez violent.
Bah ouais.
Chouille. Et puis surtout, il est très violent dans Les Affranchis, dans Casino. Un petit peu même dans Raging Bull, il est même brutal.
Ouais, il s'embrouille tout le temps, ils sont tout le temps en train de se
battre. Et finalement, dans L'Arme Fatale, c'est un peu une victime, quoi.
Ouais. Et ça, c'est le rôle qu'il va un peu garder après dans les années 90, plus pour se marrer. Il y a un film d'ailleurs qu'il va faire avec Danny Glover qui s'appelle Gone Fishing, où ils vont à la pêche comme des vieux en 97, et où c'est vraiment un truc de comédie de vieux en fait.
Ça me donne envie de le voir.
Ça me donne envie de la pêche.
Il a l'air très bien.
Avec Joe Pesci.
Et aussi, petite info, Tabsienne, on connaît tous ici La Course aux Jouets. En plus, c'est un film de Noël de fou, La Course aux Jouets.
Ouais.
Et bah. Joe Pesci était choisi à la base pour jouer le postier, le mec qui combat Schwarzenegger
dans
le film.
Mal, ça.
Ouais, et en fait ils se sont dit en faisant les essais qu'il était trop petit par rapport à Schwarzy, donc pour faire un peu la bagarre et tout, ça.
Là, celui
ça
qui a
pas,
été
quoi.
Choisi, c'était une star du stand-up à l'époque aux États-Unis.
C'est ça. Ouais. Je pense qu'il cherchait un comique de ce style. Mais en gros, Pesci a failli être dans un deuxième film de Noël après Maman j'ai raté l'avion,
ça,
qui était
après
donc La Course aux Jouets. Ouais, c'est en 96.
Et pour jouer super film de Noël.
Et pour le coup, bah après avoir fait tout ça, il se dit je vais arrêter ma carrière. Il a arrêté en 99. Il s'est dit maintenant je ferai plus que de la musique et je resterai avec mes potes. Ouais, ouais.
Oh là là.
Et donc là, ça faisait 20 ans qu'il avait rien fait. Il avait joué dans quelques films de Robert De Niro, comme par exemple comme The Good Shepherd. Et là, bah, The Irishman qui est sorti cette
incroyable
année, qui est le film qu'il a sorti de sa retraite.
Et d'ailleurs, j'ai lu qu'apparemment De Niro Scorsese.
Ouais,
tu devais le dire.
C'est De Niro et Scorsese qui l'ont appelé, harcelé. Il a refusé au moins
20 fois.
Il a refusé des tonnes de fois, des fois tout seul.
C'est
De Niro de son côté, Scorsese de son côté, De Niro et Scorsese ensemble. Je crois qu'à un moment, Al Pacino était dans la salle en disant « Ouais, mec, faut vraiment que tu viennes !» Et il voulait pas le faire, et ça l'intéressait pas du tout. Et au final, ils ont réussi à le mettre, et ce sera sûrement son dernier film, quoi.
Je voudrais dire ici que j'ai rencontré Martin Scorsese il y a 3 semaines.
Mais oui, c'est vrai.
Ah oui.
Il est cool ou pas, Marty ?
Oh, il est très sympa. Marty. Mais bon, je ne vais pas trop parler parce qu'il est évidemment très entouré. Mais par contre, il disait que pour The Irishman, il disait que donc il y a eu cette fameuse méthode du rajeunissement qui a été fait en post-prod. Et il disait que c'était hyper chelou que De Niro et en tout cas Joe Pesci étaient hyper perturbés de se voir jeune. Ça les a vraiment, vraiment, vraiment archi perturbés et tout. Parce que ça pose plein de questions évidemment après. Tu vois, est-ce que tu rejoues des rôles alors que t'es vieux, plus jeune, enfin voilà. Petite anecdote, mais
très bien. J'ai reçu un message sur Insta un soir de Laura qui fait j'ai dit bonjour à Martin Scorsese. J'étais genre putain, la chance.
Il m'a vraiment dit en partant.
Et toi, non, mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, hein? Toi, t'étais dans ton canapé.
Moi, je me faisais des pâtes. C'était une vie très faible à ce moment-là.
Ah, d'ailleurs, surtout, il avait cuisiné des pâtes parce qu'il avait sorti un livre de cuisine qui reprenait les cuisines, les recettes de sa mère quand ils étaient arrivés à New York. Et il y avait un chef, je crois que c'était du Bristol ou du George V, un truc comme ça, qui était venu lui cuisiner la recette des boulettes de sa mère. Lui, le mec était italien aussi, et il a suivi la recette. Stylé. Et après, on s'est partagé les boulettes en loge.
Pour compléter ce que tu dis, vu qu'on forme une équipe, la mère de Scorsese joue souvent dans ses films, et on peut la retrouver dans Les Affranchis.
Et elle lui fait des pâtes, justement.
Ouais, elle est là, elle cuisine, elle est dans la cuisine.
Surtout, t'as quel talent quand t'as un resto depuis 4 ans, et tes mecs, ils font, bon, écoute, viens faire un film avec nous, il fait, bon, allez, j'y vais. Clair. Ça lance ta carrière, après tu fais, bon, allez, j'arrête. Et après, t'en apprends, on fait allez, viens faire avec Frédéric. Oh non!
Mais d'ailleurs, j'en ai marre. Joe Pesci qui.
C'est fou quand même.
Qui d'ailleurs avait gagné un Oscar.
Bah, c'est génial en vrai.
Bah, c'est ça, incroyable. Il a gagné deux Oscars.
Il a gagné un Oscar pour Les Affranchis. Mais,
ouais. Et un aussi pour Raging Bull pour le coup.
Ouais, et quand il a gagné son Oscar, il s'est juste ramené sur scène et il a dit Thank you, it's my privilege. Et puis il est parti.
Mais oui, mais tu vois, en fait, et j'entendais l'autre jour Simon Apkarian qui disait un truc hyper intéressant. Il disait un acteur, c'est la somme des choix qu'il fait, mais aussi de tout ce qu'il va pas faire. Et c'est tellement vrai parce que tu vois, il aurait peut-être eu 10 autres films et au final, ce serait pas Joe Pesci pour nous, tu vois.
Ça donne beaucoup d'espoir à tous les serveurs de France qui attendent qu'un producteur leur dise « Je veux un demi, s'il te plaît !» Et ils disent « Ah, c'est peut-être
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Aurélien, parce que finalement, Joe Pesci, il a arrêté sa carrière au top. Il y a un autre acteur comme ça qui a arrêté sa carrière au top. Enfin, au top. Il avait quand même fait des bons films et puis il était quand
Frédéric
même assez
Diffental.
Facile. Non, c'était pas lui. Lui, il a pas voulu.
Il est con.
On sortit de notre
tombe. Vincent Elbaz.
Ouais.
Et. Ah, ça dénonce dur ici. Hein. C'est pas l'esprit de Noël encore une fois.
Franchement, Vincent Elbaz, ça se fait pas.
Oh, ça va, je rigole, Vincente.
Et Rick Moranis, qu'on connaît dans SOS Fantôme ou encore dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Vous savez, c'est
le professeur avec les lunettes. C'est le daron?
Ouais. En fait, il a arrêté sa carrière très tôt, dans sa quarantaine, mais lui, pour une histoire un peu plus sombre, et là encore, c'est pas l'esprit de Noël. Mais parce que sa femme a eu un cancer, et il s'est dit, ok, bah, j'arrête tout. Il avait plein de propositions. Et en fait, il a consacré sa vie à sa femme. Et encore aujourd'hui, bah, il ne joue pas. Il se consacre à la santé de sa femme.
Bah, elle est toujours pas morte. C'est qu'elle est pas morte. Ouais.
C'est cool.
Donc c'est bien.
Et bah, écoute, c'est bien.
Ça a marché. Tant qu'il ne joue pas, c'est qu'elle est vivante.
Et là, c'est l'esprit de Noël, du coup. Ça se termine bien.
Donc en fait, il faut s'inquiéter le jour où on le revoit à l'écran.
Bah non, ça veut dire que tout ira bien, ça sera terminé.
Bah non, justement.
Et du coup, il y a des producteurs qui l'appellent en disant reviens, reviens, et lui ne revient pas. Alors que les fans le veulent, Rick Moranis, parce qu'on adore tous Rick Moranis.
Après, t'as des gens qui n'ont pas envie, je crois. La meuf qui faisait Mathilda aussi. Elle a dit après Mathilda. Je ne veux plus jamais jouer dans un film. Pourquoi ?
Il me regarde. Parce que comme vous l'avez peut-être vu sur Netflix, il y a ce fameux Movies That Made Us qui parle donc de Maman, j'ai raté l'avion, si vous l'avez vu. Et j'ai appris quand même que dans Rick Moranis, dans Ghostbusters, ça devait être John Candy à la base.
Ah ouais.
Eh ouais les gars.
Eh ouais les gars, voilà, il a droppé ça.
Et là ça fuse.
Il a fait un drop de Capricorne.
Ça fuse là.
John Candy qui est mort sur un plateau en plein tournage d'une crise cardiaque et là encore une fois c'est pas l'esprit.
Ah oh, mais t'arrêtes pas.
Bah, oui, bah, écoute, c'est aussi
alors, la crise cardiaque, c'est aussi.
Et je voudrais qu'on fasse une minute de silence.
On dirait qu'on joue à trois petits chats, on récupère le dernier mot et on fait.
Et est-ce que vous avez des anecdotes sur des gens qui sont morts ?
Ah non.
À Noël.
Ah ouais,
bah
le soir de Noël.
Il y a la fameuse légende. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Non, mais c'est la fameuse légende qu'on retrouve d'ailleurs dans Gremlins, du père qui se déguise en Père Noël et qui
reste bloqué dans la
cheminée et qui est mort. Ça, là,
y en a plein si, c'est déjà arrivé, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Le mec vient pour donner des cadeaux en mode déguisé.
Ouais, d'accord, toute la famille, elle se dit pas, il est où papa, il n'y a pas de problème.
Bah non, ce qu'il le dans la cheminée.
C'est la surprise.
Je crois pas en cette info, de toute façon.
Il se casse le cou.
Il s'est cassé le cou. Je croyais qu'il était resté coincé.
Non, mais non.
Ah ouais, parce que resté coincé, le temps de mourir, il reste quand même une semaine.
Il tombe et puis pouf.
Ça résonne dans la cheminée.
Moi, je me souviens, les réveillons de Noël, quand j'étais petit, mon oncle, je l'ai su bien évidemment beaucoup plus tard. Mon oncle, en fait, il cognait. Ma mère nous disait, en plus, c'était grillé de ouf.
J'ai peur.
Ma mère,
mon oncle cognait. Paf, ça s'arrête là. Merci à tous de nous avoir suivis.
Mon oncle nous frappait de ouf le soir de Noël. Non, en fait,
l'esprit de Noël est.
Vers 23h55.
Ah, l'esprit de Noël.
Bah, on fêtait ça chez ma grand-mère, avec mes cousins, mes oncles, etc. Et ma mère, à 23h55, nous disait « Bon, les enfants, allez dans la chambre de votre grand-père et puis surtout, vous sortez pas. Hein. » C'est grillé de ouf, ça, quand on dit ça. Mais bon,
ouais,
moi,
quand j'étais petit, à fond.
Ouais, quand j'étais petit, tu comprends pas. Tu... Bon, bah, c'est nous dit ça, elle nous dit ça. Tu vois. On allait dans la chambre et comme par hasard, 5 minutes plus tard, on entendait cogner à la porte. Oh, c'est le Père Noël, les cadeaux sont là, etc. Et nous, après, on courait pour aller chercher les cadeaux. Et c'est en fait, c'est là que je me disais, on était débiles parce que c'est grillé de ouf.
J'en conclue que tu fais partie de la team 24 décembre, les cadeaux.
Moi, je suis parti de la team. Moi,
25
je suis...
décembre.
Non. Moi, je suis parti de la team. Il est minuit. Ça y est, c'est les cadeaux au 24 décembre.
Cadeau au réveil le 25.
Non, pas le réveil. Alors, on va faire un tour de table. Réveil ou pas réveil?
Moi, pas réveil.
Oui, toi, pas réveil.
Pas réveil.
Oui, le 24 au soir, on est d'accord.
24 au soir, bah, 25 au soir, 26 au soir, 27 au soir.
Ah oui, d'accord.
C'est au soir.
C'est la carte.
Mais tu fais Hanouka, en fait.
Ouais, moi, je fais une petite semaine de nono, ouais.
Et toi, Aurélien?
Moi, c'est 25 matin.
Voilà. Ça t'aime pas, ça?
Quand j'étais petit,
non, c'est qu'on allait se coucher et c'était le matin, ouais. Ouais,
le matin, où t'es là à 6h du matin. Réveille-toi, toi, il y a les cadeaux dans le salon. Et ma sœur, elle est là, mais non, la grande. Je vais avoir la Super Nintendo, putain.
Et Guillaume, le 29, pour toi, c'est pas cadeau.
29, c'est plutôt le matin en général. Avec le petit-déj, un billet dans une enveloppe, quoi.
Le petit billet.
Un paquet illico à gratter. Avec une ancienne carte.
Ah, je me souviens de ça.
Un paquet illico.
Non, il y avait plein de trucs. En fait, il y avait une sorte d'enveloppe et il y avait tous les jeux à gratter.
Si, j'ai récemment fait une publicité pour ça.
Voilà. Ah oui.
Sachez-le.
Bravo.
Et la carrière d'Anna avance à grands pas.
Exactement.
Ça tire à balles réelles. Et c'est pas l'esprit de Noël, encore une fois.
C'est une blague.
Mais attendez, on a dit qu'un acteur se faisait sur le choix des films qu'il ne fait pas. Bah, je pense que ma carrière est en train de se faire.
C'est vrai que t'as pas fait de Joker, du coup.
Non, j'ai pas. Non, en fait, j'ai pas trop envie, mais bon.
Harley Quinn.
Alors, Laura et Anna.
Ouais.
Noël, c'est aussi la période des fameux téléfilms de Noël. Qu'on retrouve chaque année sur TF1 ou M6. Et des téléfilms comme ça, il y en a 1000. On ne sait jamais vraiment lesquels choisir. Hein? Parce qu'il y en a tant.
Non, il y en a tant.
Telenovelas de nueves.
Non, pas cela. Alors, comme vous êtes deux filles très créatives.
Oui.
Hein, vous êtes créatives, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Absolument. Ouais.
Je vous propose qu'on crée ici nous-mêmes notre propre scénario du téléfilm de Noël 2019. Ok? J'ai écrit une première mouture comme si c'était une bande-annonce avec des trous. Et ça va être à vous de compléter les trous et de m'aider à ficeler ce scénario.
Aïe. Ok.
Est-ce que vous êtes prête?
Absolument. Je m'engage à jouer dedans, dans ce film-là.
Bravo. Écoute, si un producteur écoute et qu'il trouve ça cool, pourquoi
je
pas?
Je le produirai.
Vous savez
moi-même.
Que ça se passe aux États-Unis.
Ok.
D'accord? Alors, il va y avoir une petite musique d'ambiance en fond. Okay. Très ambiance téléfilm de Noël.
Ok.
Et je vais commencer comme si tu étais la voix off, c'est à vous de compléter les trous, d'accord?
D'accord.
Bienvenue dans la petite ville de...
Snowflakes.
Pas mal. C'est la petite ville de Snowflakes, dans l'état de...
Washington.
Ça existe, ça, ou pas?
Non.
C'est la ville de Snowflakes, de l'état de Washington. Ok. Elle, c'est...
Karine Carlett.
Ok. Elle, c'est Karine Carlett. Son rêve, c'est de...
devenir chanteuse populaire.
Chanteuse populaire. Devenir chanteuse populaire.
Et de faire des galas dans toute la France.
C'est ce qui est venu. C'est le pitch du biopic de Cindy Sanders.
Donc, son rêve, c'est de devenir chanteuse populaire. Et tout est bouclé. Après les fêtes de Noël, elle partira à la conquête de son rêve. Mais ses plans se retrouvent chamboulés lorsqu'elle tombe sur le beau...
Chris Raylan.
Qu'elle n'avait pas revu depuis...
42 ans.
42 ans, ok. Donc elle rêve d'être chanteuse vieille. Populaire depuis 42 ans, mais écoute, c'est son rêve.
C'est vraiment la frêle, en
vrai. Ok. Le hic, c'est que ce beau...
Bah, je suis un merde.
Sort avec sa cousine, une véritable...
peste.
Oh, c'est gentil parce que j'ai vu Laura. Ça partait sur un gros. On va pas le dire, mais.
Elle partait sur quoi, je l'ai pas vu.
Ça commençait par la même lettre.
Une véritable peste. Triste de ne pas pouvoir lui dévoiler ses sentiments, elle va tout bonnement.
Essayer de se suicider.
Esprit de Noël 12.
Elle va tout bonnement essayer de se suicider. Et c'est là qu'un miracle de Noël a lieu. Le soir du réveillon. Cette fameuse cousine...
Karine, aussi.
Non, c'est une action, là, du coup.
Ah, cette fameuse cousine...
arrive avec une corde.
Une corde, apparemment. Ok.
Putain, c'est glauque.
Pour l'aider à suicider, c'est un téléfilm de Noël très
chouette. Non, c'est une corde de papier cadeau.
Un miracle de Noël qui va permettre à...
Joséphine...
de se retrouver. C'est quoi son
prénom? C'est Karine, on a dit. C'est Karine.
Un miracle de Noël qui va permettre à Karine de se retrouver face à un terrible choix. Saisir son rêve ou rester à
Snowflakes.
Aux côtés du beau.
Je me mets le nerf.
Bien, bravo, est-ce que ça vous donne envie? Guillaume et Aurélien, est-ce que ce téléfilm de Noël vous donne envie?
Direct. Il sera diffusé dans tous les EHPAD à partir du 24 janvier.
Ça s'appelle La Corde.
La Corde de Noël. La Corde de Noël, film écrit par Laura et Anna, on peut les applaudir.
Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Bon. Comme quoi, hein. Pas tout à fait ça en termes de scénariste, là.
Alors, en parlant de miracles et de magie de Noël, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez appris que le Père Noël n'existait pas? Alors, je balance un énorme spoil, mais j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous avez plus de 8 ans, le podcast.
Oui.
Guillaume?
Pas du tout.
Ah, tu te souviens pas, toi?
Non, absolument pas.
T'as jamais cru au Père Noël?
Si, parce que je m'en souviens que je regardais par la fenêtre et genre, quand je voyais un avion, je me disais, mais attends... C'est les trucs, juste les petits coupures, je me disais, attends, on est quel jour là? Ouais, ok. Et en fait
trop non, je sais mignon.
Pas. Je sais pas quand j'ai découvert que ça n'existait pas. Je suis un homme depuis très longtemps, moi, tu sais.
Aurélien, tu t'en souviens ou pas?
Non, je me souviens pas du moment exact, mais je me souviens de mon oncle qui se déguise en Père Noël et bon.
Ouais, ah oui, donc c'est grillé.
C'était mon oncle. Je vais faire un tour.
une fois que tu vas dans les supermarchés et que tu vois que tous les Pères Noël, ils changent de morphologie.
Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est terrible, je trouve vraiment. Ils devraient regarder cette. À Ikea, putain, l'autre jour, il y avait un Père Noël. Mon Dieu, c'était pas un Père Noël, ça.
C'était
une sorte de... Il était tout maigre, il avait 20 ans, enfin, il cachetonnait, le mec. Hein,
voilà. Surtout, je me dis, parmi toutes les destinations possibles, pourquoi chaque année, il choisit le centre commercial de Vélizy 2?
Ouais, pas faux.
C'est vrai.
Et toi, Laura, alors, le Père Noël?
Non, j'ai pas du tout le souvenir. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie un peu d'effacer cette information traumatisante, on ne s'en rappelle pas.
Non,
en fait, ça devient un petit truc, je crois, quand tu commences à grandir, tu sais, parce que tu sais que les plus petits y croient. Toi, t'y crois plus.
Donc t'es la grande.
Ouais, et tu te dis, c'est ça. Ouais, le Père Noël, il arrive à 23. C'est bizarre, oncle Jamy n'est plus là. J'ai aucun nom qui s'appelle Jamy, putain.
Surtout, le méga doute, c'est ça. C'est qu'il passe chez tes parents et parfois, il y a ton oncle qui arrive. Ah, mais tiens, il a déposé ça pour toi chez moi.
Ouais, puis il fait très mal la voix, quoi.
C'est le Père Noël de chez ton oncle.
Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère pour le réveillon. Et du coup, j'étais persuadé que le Père Noël existait. Et on sortait les cadeaux du coffre avec mon beau-père. Et je m'étais dit, allez, je lui en place une petite, il va être épaté. Et je lui ai dit, putain, je viens de voir le Père Noël dans le ciel, là, c'est un truc de ouf, tu vois. Et je me souviens que mon père m'avait dit, ça a dû être lui. Alors qu'il a dû se dire, bah, quel mytho celui-là.
je pense qu'il s'est juste dit qu'il était attendri par un enfant.
Non, je pense qu'il s'est dit, c'est un mytho.
C'est quel bouffon.
Ça se trouve, nos parents se disent ça, mais quelle bande de bouffons, en fait.
C'est ça, exactement.
Je suis sortie à 23h58, t'as rien capté. T'es un bouffon, vas-y.
Et du coup, toi, Laura, t'as jamais cru au Père Noël ou t'as
Anna,
cru
un...
Ah oui, excuse-moi. Toi, Anna, t'as jamais cru au Père Noël, du coup.
Attends, j'ai qu'on l'a insulté, Anna.
C'est une assainte.
Non, c'est pas ça, c'est que je vais prétendre que j'ai pas entendu ce spoil.
Ah oui, d'accord, t'y croyais
encore. Mais j'aimais vraiment. Si, je pense que j'y ai cru, je sais pas jusqu'à quel âge, je sais même pas si on m'y a fait croire en fait.
Oh,
c'est
vie.
Très triste.
Oh, ouais. Mais est-ce que vous croyez encore à la petite souris?
Justement, j'allais dire. Non, j'ai plus une anecdote sur la petite souris. C'est que, un peu comme toi, Gibouille.
Gibouille.
Alors, Gibouille, dites-nous sur Twitter.
Non, je me souviens de mon grand frère qui m'avait. Enfin, moi, je ne croyais plus à la petite souris et mon grand frère m'avait dit qu'il avait perdu une dent et qu'il avait senti les pattes de la petite souris. Il l'avait senti monter
énorme
sur son
mytho,
visage.
Hein.
Ce qui est vrai,
et je me suis dit, mais
à l'époque,
peut-être qu'il y avait des souris chez lui.
Peut-être des rats.
C'était la vanne de Laura, je veux le dire. Hein, je voulais clairement piquer.
Comme je ne fête pas Noël et que j'habitais dans une cave, peut-être que c'était vraiment.
C'était encore la vanne de Laura.
Ah, c'est ce que t'as dit? Ah merde, j'ai pas entendu.
J'ai fait toutes fêtes les derrière, ça me dérange pas, je suis poisson.
je suis poisson.
Moi, je me souviens, c'était assez triste, mais j'étais en vacances en Normandie, j'ai une maison en Normandie, et en fait, il y avait ma cousine qui m'avait dit, le Père Noël, il n'existe pas, t'es au courant, sèchement comme ça. Sauf que moi, je savais pas à ce moment-là, donc c'est comme ça qu'elle me l'apprend, tu vois. Moi, je suis encore petit. Et du coup, comme je voulais pas perdre la face, je lui ai dit, bien sûr, je suis au courant,
mais je
saignais de l'intérieur. Oui, mon pauvre Gibou, effectivement, on peut le dire. Et j'avais très mal à l'intérieur, voilà, c'est comme ça que j'ai appris.
T'as cherché à savoir ou juste tu t'es fait détruire par ta cousine comme ça?
Ah non, c'était vraiment gratos. C'était triste. Voilà. Et après, je demandais à ma mère, je fais, alors c'est vrai ou pas? Elle m'a fait, mais non, c'est pas vrai.
Regarde, il y a un numéro de téléphone, tu peux l'appeler.
Mais vous savez, en Alsace,
c'est comme ça que j'ai appris que j'étais adoptée aussi.
Donc la Saint-Nicolas à Strasbourg.
On fête en Alsace la Saint-Nicolas, donc on reçoit basiquement des mandarines et des petites brioches. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Donc,
ah oui, le père fouettard.
Quand t'es gentil pour... Donc, ah, c'est encore pire, parce que quand t'as pas été gentil, c'est pas t'as pas de cadeau, c'est qu'il y a le père fouettard qui vient avec un fouet et tout.
Moi, je viens pas d'Alsace, et le père fouettard.
Tu connais?
Ah, je connais, oui.
Et mais ma mère, en maternelle, elle faisait tout le temps le Saint-Nicolas, parce que ma mère est comédienne. Et donc, elle se déguisait en Saint-Nicolas. Et en fait, elle avait plein de colliers. Et un jour, elle va à la maternelle, et elle fait Saint-Nicolas, et ma sœur voit qu'elle a tous les colliers de ma mère, tu vois.
Ouais.
Et en rentrant le soir, c'est très mignon, elle a dit à ma mère, maman, le Saint-Nicolas, il avait exactement les mêmes colliers que toi. C'est pas trop mignon. Qu'est-ce qui a été conne, putain. Grosse conne, va. Je rigole, les HTM.
La meilleure question de ce podcast, j'ai une très bonne question pour vous. Tour à tour, tour de table, je vais vous demander... Le souvenir de votre meilleur cadeau de Noël.
Oh là là.
Le meilleur cadeau de Noël que vous ayez reçu. On adore répondre à ce genre de questions. Alors, moi je vais commencer, comme ça vous allez pouvoir réfléchir. Et en général, quand t'es petit, bon, bah, c'est une histoire de console. Hein. Moi je suis né en 83. Mmh. Et je me souviens du soir où j'avais reçu la Super Nintendo avec Street Fighter à l'intérieur. C'était tellement le feu. Mais tu sais, ce sentiment, en fait, quand tu ouvres le cadeau, tu le déchires et que tu vois qu'il y a la console en dessous, parce que c'est tellement cher.
Super Nintendo, c'est un
quand t'es petit, tu dis, mais c'était cher ce cadeau. Ouais, tu vois. Ouais. Et surtout, le truc, c'est qu'après, tu le branches et puis tu y joues. Et en plus, il y a un truc qui est cool avec le réveillon de Noël, c'est qu'il y a une effervescence. Tout le monde ouvre les cadeaux, etc. Et c'est un des seuls soirs dans l'année où tu as le droit de veiller et de rester jouer jusqu'à 2-3 heures du matin parce que les parents discutent, etc. Et là, tu joues jusqu'à 2-3 heures. Alors, c'est cool, tu peux jouer jusqu'à pas d'heure, t'as la console, etc. Mais c'est tellement le feu, c'est le meilleur souvenir d'une vie.
Oh, c'est trop mignon. C'est vrai. Il a beaucoup bougé ses mains en parlant de ça.
Et toi, Guillaume?
J'allais dire la Super Nintendo, mais non. En fait, je viens d'y penser. Mes parents, ils m'ont quand même offert une batterie.
C'est une batterie, parce genre de médecin?
Une
batterie de cuisine?
Ouais, une batterie de cuisine.
C'est quand même le pire cadeau à faire, ça.
Non, parce qu'en fait, figure-toi que je.
Tu regrettes tout de suite quand tes parents.
Un jour, mon père, il est rentré dans ma chambre. J'étais en train de jouer au G.I. Joe, je m'en souviens très bien. Il m'a dit: Yo, tu voudrais pas faire de la batterie, toi? J'ai dit: oh ouais. Ouais, je vais t'inscrire à des cours, il y a une école, rue Croix-Niver.
Avec cette voix et tout?
Ouais, avec la voix de mon père. Il m'a inscrit au cours de batterie. Et du coup, à Noël, j'avais commencé en septembre, et à Noël, ils m'ont offert une batterie. Ils ont tellement bien fait les choses, ils sont tellement gentils. Et je les remercie, vu qu'ils n'écoutent pas le podcast, mais je les remercie quand même. Ils ont demandé à la voisine du quatrième de prêter sa cave. Ils ont mis toutes nos affaires dans sa cave à elle. Ils m'ont aménagé une cave pour que je joue de la batterie dans la cave de mon immeuble.
Est-ce que tu joues bien maintenant?
Et j'en ai fait mon métier pendant 10 ans. Ensuite.
Ah!
Et oui! Voilà.
Putain, c'est une histoire à la Joe Pesci, ça. Hein.
Ah, c'est beau, ça.
Très beau cadeau.
Très beau cadeau,
la batterie. Et toi, Aurélien, cadeau de Noël?
C'est pas très original, mais je pense que c'est aussi une console. Hein.
En vrai.
Moi, c'était la Mega Drive. C'est fou.
Toi, c'était l'Atari.
C'est fou.
Moi, c'était la Commodore en 1990. Amstrad. C'était un ordi, en fait. Non, c'était la Mega Drive, moi, je crois.
Ah, j'ai la Mega Drive. C'était feu, ça.
Ouais. Avec Spider-Man, je me rappelle. C'était un package avec Spider-Man.
Aïe. C'est la folie.
J'étais méga fan.
C'est
Spider-Man,
un lot.
En plus.
Et toi, Laura, alors, meilleur cadeau de Noël?
Franchement, moi, je me rappelle pas trop petite. Enfin, j'ai eu des trop beaux cadeaux de Noël, mais je me rappelle. Mais c'est surtout maintenant, moi. Parce que je fais des cadeaux de Noël exclusivement dirigés vers le confort. Et moi, tout ce qui est confort, donc l'année dernière, par exemple, j'ai reçu une parure de drap en lin que j'adore, dans laquelle je me délecte encore aujourd'hui.
De quoi t'as dit quoi?
Une parure de drap en lin que j'adore.
Mais triste.
Ouais, mais non, c'est pas triste.
Parce que... sur un délire, non, batterie Nintendo.
Non, et surtout un coussin chauffant.
Ah ouais.
Je suis désolée.
Mais quel âge as-tu?
Qui d'abord, normalement, est réservé aux douleurs des lombaires, quand on fait des lombalgies. Mais moi, je l'utilise car j'ai le syndrome du côlon irritable sur le ventre. Et
joyeux Noël! Wow.
Je vous jure que moi, tout ce qui est tout ce qui en rapport avec la tisane, des chaussettes, avec des antidérapants en dessous et tout,
Boîte de Smecta et vous la refaites.
Non, mais j'adore. Donc, tout ce qui est dans le confort.
Toi, tu fais partie de ceux où, quand on achète un cadeau, on sait pas trop, ça va lui plaire, mais toi, ça te plaît en fait.
Ouais. Moi, c'est pas. À Laura, tout ce qui est nature et découverte,
Tu lui amènes une bouillie à découvert.
En fait, non, mais
ce que je trouve génial, c'est de faire. Non, en vrai, c'est aussi quand tu fais des listes. Moi, j'aime bien maintenant faire des listes pour pas que ce soit gâché des trucs, tu vois. De me dire, ah putain, ils vont encore m'offrir un vieux poivrier, j'en ai rien.
D'ailleurs.
Tu vois,
vous êtes comédienne.
Ouais.
Est-ce que c'est pas le pire truc à jouer? De jouer la joie quand on reçoit un cadeau que t'aimes pas.
Bah ouais.
C'est dur, hein. Même Joe Pesci peut pas jouer ça.
Je pense que le pire truc à jouer, c'est le viol, quand même, mais ouais. Bah, c'est le pire truc à jouer. Je suis désolée, c'est le pire truc à jouer.
Oui, on est d'accord. C'est pris de Noël.
Non, c'est pas le pire truc parce que quand t'as beaucoup d'expérience. À ce niveau-là, tu finis par te faire.
Ouais, j'essaie d'écouter ce que tu me dis, Anna, mais je reste sur le truc d'avance. J'ai beaucoup de mal à me concentrer.
Oui, mais j'ai l'habitude, écoute.
Et toi, t'as quand même eu des beaux cadeaux à Noël. Enfin, Noël, Hanouka, tout ça.
Un beau souvenir de cadeau. Je suis juive.
Exactement. D'accord. Je tiens à dire ici officiellement que je suis raciste dans ce podcast.
Voilà, je comme ça, c'est fait.
Comme ça, c'est fait.
J'espère que ça ne rendra plus personne. Ouais, ouais,
c'est fou, ça.
Ouais, j'ai.
Ouais, c'est une info exclusive que je lâche là sur le podcast.
En fait, j'ai eu des beaux cadeaux, mais c'est surtout. Moi, j'adore faire des cadeaux, mais vraiment. Okay. Genre, ouais. C'est vraiment un kiff pour moi de chercher ce qui va faire plaisir à la personne.
Bravo.
Donc, faites en sorte que je vous aime bien si un jour.
Encore une fois, tu es la meilleure d'entre nous.
C'est vrai qu'elle fait des bêtes de cadeaux.
Est-ce qu'elle a cité un de tes cadeaux?
Parce que, non, elle m'a fait des super cadeaux à mon anniversaire. Elle avait, tu vois, pris une petite boîte. Bon, c'était un peu raciste parce qu'elle avait mis que des trucs asiatiques. Mais n'empêche que
c'est une petite pagode.
Elle a dit, alors ça, j'ai trouvé chez Tang Frère. Ça, j'ai trouvé chez. Elle avait fait que des petites. Mais c'était trop mignon. Et encore aujourd'hui, je mange avec sa paire de baguettes.
C'était du racisme.
En forme de flamant rose. Voilà. Merci Anna. Non, elle fait des bêtes de petits.
Non, mais c'est vraiment un plaisir d'aller. Et genre, je suis trop excitée jusqu'au moment où je dois donner le cadeau. Et après, c'est toujours un peu la déception parce qu'on me fait genre. Ah, merci.
Non, moi
c'est
j'adore
cool.
tes cadeaux.
Non, mais bien sûr.
Bah,
mais
refais alors.
Mais souvent. mais souvent, du coup, je suis un peu. Enfin, j'ai eu des bêtes de cadeaux quand j'étais enfant, mais je me souviens plus forcément. Mais je suis un peu déçue, tu sais, du manque d'attention qu'on met sur les miens.
C'est triste.
Genre, j'ai une orange, tu vois, c'est cool. Mais non, je rigole. Mais
j'étais à fond dedans. J'étais là, waouh, l'orange.
Entre les rats et l'orange.
Tous les gens, ils disaient, j'avais des oranges quand j'étais petit.
Ouais, c'était toi. Non, non, mais non, qu'est-ce que j'ai eu? Je sais que j'avais une, si pour revenir dans ce que vous disiez, une Sega.
Ah ouais, t'as eu ça, toi?
Ah, j'adorais.
Putain, laquelle?
Comment
laquelle,
ça s'appelle? Je crois que c'est la Mega Drive.
La Game Gear. La portable.
Ouais.
La Game Gear.
J'adorais et j'avais Picsou dedans.
Tu pouvais même pas finir un jeu parce que ça avait 30 minutes de batterie.
Ouais, c'est ça. Et mon père me la piquait. Mon père nous l'a. J'avais eu avec mon frère, il nous la confisquait parce qu'il voulait pas qu'on joue trop tard et tout. Et en fait, un jour on a.
C'est une bonne excuse.
Un jour on a grillé qu'il était dans son lit en train de jouer à Sonic.
Il a raison là, allez.
Ah ouais.
Et en parlant de console et en parlant de pire cadeau de Noël, il y a une histoire d'un mec au collège qui était pote avec moi. On rentre à la rentrée de janvier. Je dis, alors t'as eu quoi à Noël? Il m'a dit, mes parents, ils m'ont offert une photo de la PlayStation 1 et il avait écrit quand t'auras des bonnes notes.
Oh la vache!
La magie de Noël!
T'as qu'à jouer avec une photo, tiens!
Est-ce que ça pousse à avoir des bonnes notes après? Je ne pense pas.
Ma mère, elle me faisait une face comme ça, et d'ailleurs, je suis sûr qu'elle avait écouté le podcast, mais elle me faisait une face que je détestais quand j'étais petit. C'est que chaque été, elle venait comme ça, puis moi j'oubliais. Elle me disait, ouais, j'ai un cadeau pour toi, etc. Elle l'emballait et tout. J'ai un cadeau pour toi, moi j'étais à fond. Et à chaque fois, c'était les cahiers passeport là, pour faire les devoirs.
Oh,
c'est pas relou,
non,
ça,
c'est insupportable.
Elle s'appelle comment, ta maman?
Fabienne.
Bravo, Fabienne, vous êtes du moins.
Mais je détestais ça. Franchement, j'étais vénéré, là, c'était un peu des barres.
Ça, c'est les cahiers de vacances, franchement, pourquoi, quoi?
Non, mais les passeports, c'est terrible. Est-ce que vous avez eu des passeports à Noël?
Bien sûr, tout le temps, des passeports.
C'est terrible, les passeports.
À Noël, non.
Non, l'été, les grandes vacances.
T'es là, tu te lèves tous les jours de 6h à 10h, t'es en cours. En août, on te dit, tiens, un passeport, ouais. Putain.
T'as fait cahier de vacances.
Ouais, oh.
Moi, je me souviens, ma mère, elle m'a mis un mois en Normandie chez ma grand-mère. Et donc, c'était à ma grand-mère de gérer mon passeport, mon cahier de vacances.
Passeport.
Sauf que j'avais vu où elle avait caché les réponses. Donc en fait, chaque soir, j'allais choper la réponse, j'ai marqué sur une feuille.
Bien joué.
Et le lendemain, je le mettais comme ça durait 2 secondes.
Attends. Personne n'a jamais fini un cahier de vacances.
Non,
il se disait,
non,
mais
ce parent craque avant.
Tu fais 7 pages, après t'es là. Ouais, c'est
bon. T'en as eu, toi, Laura, des passeports?
J'en ai eu,
puis. Je sens que tu. Je sens
parce que
t'es
j'avais une belle-mère qui était archi passeport. Et donc, elle. Voilà, elle était là, que j'aime beaucoup, hein, que j'adore d'ailleurs. Mais,
elle s'appelle comment?
Véronique.
Véronique.
Véro. Et Véro, ça la rendait ouf qu'on comprenne pas, tu vois. Et du coup, j'ai des souvenirs d'embrouille parce qu'elle était là, mais enfin. 4 plus 4, tu vois. Et toi, t'es là, à Valras-Plage, t'as envie d'aller à la plage. Voilà, et non, tu vois. Non.
C'est ça qu'elle avait un peu raison de se vénère, le 4 plus 4.
Et mon père, il me force à faire un truc qui était encore pire derrière, c'est que lui, il nous disait, on va à la plage, et après, il nous disait, non, on va à la plage que quand l'arrivée du Tour de France est passée.
Oh là là.
J'en ai vu déjà, j'ai une question. J'en ai vu des.
Des virins. Est-ce qu'elle touche au genou, lancée de la camionnette?
Putain, mais grave.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où on a arrêté de vous faire des cadeaux d'enfants et on vous a fait des cadeaux d'adultes?
Ouais, je pense que c'est
la thune. En fait, c'est la thune.
On s'en chauffe quand même.
On est des questions de thune. C'est-à-dire que tu reçois une enveloppe avec les billets et puis voilà.
Oui, non, mais ça, c'est un peu cool. Mais quand t'es encore un peu enfant et qu'on te dit, ouais, t'as plus l'âge d'avoir un super jeu, tu vois.
Non, moi, j'ai toujours eu des jouets, moi, tout le temps.
Ouais, moi aussi.
Ah, moi, on m'a offert une fois une paire de lunettes, j'étais dégoûtée, quoi. Je devais avoir 8 ans.
Excuse-moi, mais dans quelle famille tu as été élevée, toi? Juste pour qu'on sache, on dise le nom aux gens pour pas passer par là.
Une paire de lunettes.
Venez faire de avec Clémentine. Est-ce que quelqu'un peut bien m'inviter?
J'espère de soleil, parce que si c'est à ta vue, t'en as besoin, c'est un cadeau.
Non, c'était des lunettes de soleil, mais j'avais 8 ans, je voulais pas.
Avec la correction. Elles sont à ta correction, madame. Enfile, toi qui as stigmate. Hey, joyeux Noël. Et fais-y attention parce que ça coûte cher. Hein.
C'est un truc bien relou.
Elles sont pas remboursées par la mutuelle. Pourquoi elle fait l'accent belge d'un
coup ? En ce moment, je faisais des bons cadeaux et ça me faisait bien rire, mais je crois que ça faisait rire que moi. En fait, les gens, ils me prêtaient des choses, tu vois, et souvent, je mettais très longtemps à les rendre. Et en fait, je les rendais en cadeau de Noël. Et il y en a un qui m'a dit genre « Wow, je l'avais pas celui-là » Et je dis « Bah si, tu l'avais. »
C'est trop drôle. Et c'est super drôle. En vrai, c'est ça aussi Noël. Je trouve que c'est marrant si tu fais des petits cadeaux. Moi, ma mère, ça fait très longtemps que je suis avec mon mec et le premier Noël, tu vois, il vient pas à Noël encore avec nous, on n'est pas mariés et tout, mais quand il revient après les fêtes, elle lui offre quand même son cadeau de Noël. Et la première année, elle m'a dit j'ai emballé une casquette Crédit Mutuel, mais il faut vraiment qu'on fasse genre, c'est hyper premier degré. Parce qu'Edouard, il collectionne grave les casquettes et elle lui a offert. On était là, genre, trop forte, et en mode on rigole pas, on fait rien et tout. Mais il était tellement gêné. Il était là, genre, mais merci Christine, c'est trop cool. Et ma mère, puis par ailleurs, mais t'es sérieux, tu crois que c'est mon cadeau? C'était
Crédit
trop
Mutuel,
drôle.
Je l'avais pas, putain.
C'est ma banque préférée en plus.
C'est que la casquette que tu mets pour faire des travaux. Tu me la mets pas dans tout moment.
Non, tu la mets pas.
C'est clair.
Je pense qu'il l'a gardé, il l'a peut-être pas gardé.
Non, il l'a pas gardé, je pense. Non. Enfin, quoi qu'il garde tout. Donc,
Petit appel pour lui.
Joyeux Noël.
Alors, Guillaume, la grande star du film, malgré la présence de Joe Pesci, ça reste Macaulay Culkin, qui est devenu instantanément l'enfant le plus mignon de la planète lorsque le film est sorti. Mais des enfants stars, il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire. C'est monnaie courante aux États-Unis.
Tout à fait, c'est monnaie courante aux États-Unis, Jean-Baptiste Gibou-Gibouze. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à deux enfants stars, parce qu'évidemment, les enfants stars, il y en a vraiment beaucoup. Et je ne peux pas parler de tout le monde, mais j'ai décidé de m'attaquer à deux enfants stars qui ont marqué les 90s, tout comme Macaulay Culkin. Deux enfants à la carrière grandiose qui ont remporté un succès unanime tant auprès de la critique qu'aux yeux des fans. Ils ont tout connu, le succès, les paillettes, l'argent, mais aussi les frasques, la descente aux enfers et la rédemption. Portrait croisé sous forme de Choc des Titans, laissez-moi vous raconter l'histoire de Édouard Furlong.
Bah oui.
Et Ludwig Briand.
Hein, c'est qui ça? Les trois frères, non?
Ludwig Briand, vous l'avez?
Ah, non. C'est Mimi Sicu.
Eh, c'est Mimi Sicu.
Ah oui, bravo.
Comment t'as fait ça? Quelle déception à l'âge adulte.
Ludwig,
aussi.
Excellent. Ludwig Briand. Alors, Édouard Furlong, il est né le 2 août 77 à Glendale, en Californie. Père inconnu et mère absente, il est élevé par son oncle et sa tante dès l'âge de 13 ans.
Belle ambiance.
Esprit de Noël. C'est aussi à cet âge qu'il est découvert par la directrice de casting, Mally Finn, qui le place pour son premier rôle. Et c'est un rôle qui allait changer sa vie, évidemment. John Connor dans Terminator 2 aux côtés de Arnold Schwarzenegger. Du côté de Ludwig Briand, quant à lui, il est né le 9 mai 81 à Soissy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise.
Pas le même délire.
C'est le Macaulay Culkin français.
Père golfeur, mère avocate.
Attends, c'est pas la petite souris, lui.
Il commence sa carrière 10 ans plus tard sur les chapeaux de roue en jouant Gavroche dans Les Misérables au Théâtre Mogador pendant un an.
Ah, quand même.
Et ouais,
ah
bah
ouais.
Quand même.
Mais il l'a fait.
Quand même, les gars, il l'a fait.
Un an, c'est plus que Jopé.
Et ensuite, il enchaîne les clips de Renaud et d'Eddie Mitchell. Nous sommes ici face à un véritable enfant de la balle. Du côté d'Edward, le succès est déjà planétaire. Il a 16 ans. Il est blindé et il sort avec sa manageuse de 29 ans.
Ah, pas mal.
Autant te dire que c'est autre chose que Dimitri qui... j'ai une copine, mais en fait, elle est aux États-Unis, puis en fait, j'ai pas la photo sur moi, mais je te jure, en fait... Bref, il enchaîne les films plus ou moins bons, American Heart, Cimetière 2 ou encore Brain Scan. Mais il renouera avec le succès en 1993 avec A House of Her Own. Ça se dit comme ça?
Ouais, parce qu'il avait joué dans Pet Sematary 2, qui était à l'époque un film qu'on attendait beaucoup, parce que le premier avait cartonné.
Ah, voilà.
Et le 2 est plutôt cool.
Et voilà, et du coup, il renoue avec House of Her Own, et surtout en 1994 avec Little Odessa de James Gray aux côtés de Tim Ross, évidemment.
Super film.
Et cette même année, en 1993, Ludwig Briand décroche son premier rôle dans.
Les Indiens, là.
Avant ça, il fait un épisode de Nestor Burma et ensuite il enchaîne avec évidemment le film qui allait changer tout changer pour lui, sans changer des guerres, mais avec Patrick Timsit, J'ai nommé un Indien dans la ville, où il interprète le rôle mythique de Mimi Sicu, rôle
qui l'emmènera à travers le monde pour présenter le film, tout comme Edward Furlong à l'époque de Terminator, même si c'est pas vraiment la même chose. En 1998, grosse année pour Edward Furlong, qui joue dans American History X, évidemment, de Tony Kaye, et pareil pour
Lou... Ah mais voilà, c'est ça que je me disais, pardon, excuse-moi.
Quel beau gosse, quel beau
gosse. Il est beau gosse, hein. De Edward Norton.
Quel beau gosse.
Edward Furlong, il est parti, il était à 18 sur 20 en beauté. On verra la suite.
Oh, ça sent une suite à la journée, ça.
Donc ouais, grosse année pour Edward Furlong qui joue dans American History X. Et pareil pour Ludwig, évidemment, qui participe au CD-ROM promotionnel de la région Qatar. Eh ouais, on est là-dessus. S'ensuit pour Edward, Animal Factory de Steve Buscemi. Alors, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si tu l'as vu ce film.
Buscemi, on dit.
Buscemi, Joe Pesci Buschetta. Et Steve Buscemi. Où il donne la réplique à Mickey Rourke. Et pour Mimicicu, la série 1 et 1 font 6 avec Pierre Arditi. Vous l'avez compris.
C'est le début de l'enfer. Hein.
Ouais, bah là,
j'ai lâché, là, moi, hein, personnellement. Je...
Attends.
On fait quoi, là?
Ouais. Vous l'avez compris, au début des années 2000, nos deux acteurs sont au top de leur gloire. Malheureusement, les années 2000 ne leur feront pas de cadeau. Edward Furlong sombre dans la drogue, sort avec Paris Hilton, est hospitalisé après avoir été retrouvé inconscient, couché dans son vomi. Et son physique de séducteur en prend un coup. Magie de Noël, chômage, défonce et violence conjugale. Et hôpital psychiatrique.
Aïe, aïe, aïe.
Triste affaire pour John Connor. Et loin du show business, la défonce et la folie feront aussi partie du quotidien de Ludwig après ses années fastes. Après sa maîtrise de droit, il devient attaché commercial dans l'immobilier. Ensuite, il change de voie. Il devient expert cigare dans une boutique de duty free à l'aéroport de Paris.
Expert cigare.
Parallèlement, il devient champion de poker amateur et intègre l'ENG, l'École nationale des greffiers de Dijon.
Ouh.
Et il est désormais greffier. En conclusion, mon conseil pour tous les enfants qui nous écoutent, si on vous propose un rôle avec Arnold Schwarzenegger, refusez-le et attendez qu'on vous propose un rôle avec Patrick Timsit, c'est beaucoup plus sûr.
Ah, attends, mais expert cigare.
C'était beau comme chronique.
Expert cigare.
Ouais, il est expert cigare dans une boutique de duty free à l'aéroport de Paris.
Comment ça se passe un expert cigare?
Bah bonjour, oui, de Cuba quoi.
Vous voulez
ouais,
ouais,
non, de bah, enfin tu vois, on n'a pas de langage, mais enfin.
C'est ça.
Ça reste de la vente spécialisée quoi.
L'humidité, tu sais que, c'est en fait, l'humidité.
Pour continuer sur cette chronique, j'ai regardé donc beaucoup de Destin d'enfant star et en fait pas du tout Magie de Noël quoi. C'est-à-dire que Arnold de Arnold et Willy catastrophique, Edward Furlong catastrophique. Il y a trop d'espoir.
Mais parce que je pense que c'est vraiment un vrai truc social. À mon avis, il y a
une pression sociale,
une pression qui est impossible à gérer quand t'es enfant.
Les Culkin même, c'est pas non plus la.
Non, je sais, mais est-ce que parmi tes recherches, quand même, il y a des enfants qui ne sont pas tombés plus tard après dans la drogue, dans tout
bah
ça.
Après, il y a
Drew Barrymore, très célèbre.
Drew Barrymore.
Mais non, Drew Barrymore, pas du tout.
Ah bah,
elle
est
bah non, voilà, elle est venue. Non, il y a Christian Bale.
Bah, il y a Ryan Gosling. Christian Bale, il était dans quoi?
Christian Bale était dans l'Empire du Soleil.
Ouais. L'Empire du Christian Bale, Ryan Gosling, Britney Spears, non.
Britney Spears,
il y a une galère, elle est revenue un peu.
Elle est revenue un peu.
Alors, je dois dire,
il y a quand même tous les nouveaux. Quand même, toute la génération Harry Potter, etc., tout va bien pour
oui,
eux.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est
enfin,
vrai,
c'est vrai. Pas, ouais, mais Daniel Radcliffe.
Bah, Daniel Radcliffe, il est pas tombé
exemple,
dans la défense.
Non, mais bon, c'est Emma Watson, c'est le meilleur exemple.
Emma Watson.
Bon, ah, si, il y a Nathalie Portman.
Ouais, c'est vrai.
En fait,
ouais,
il y en a plein.
Petit
aparté, je dois dire que tout à l'heure, quand Laura et Anna sont arrivées, on discutait en off. Et je dois dire quand même que quand on a mentionné Ryan Gosling, ils étaient là, genre. Ouais, pas
oh
ouf.
Là, non, c'est
pas
ce qu'on a dit.
Physiquement.
Bon, ah, si, moi je maintiens, hein, c'est bien les mots.
Anna maintient
ça.
Et Anna maintient la polémique.
Elle a maintenu, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaissent pas, qu'il ressemblait à Jordi.
Jordi, oui. C'est exactement.
Mais plus vieux, hein, Jordi, plus vieux.
Voilà.
Effectivement.
C'est pas ça qu'on a dit. En fait, on dit que si c'était un gars qui bossait à la RATP, peut-être qu'on passe
non.
à côté.
Mais
et d'un coup, s'il vient, hop, il te allez, contrôle allez, le ticket allez, et qu'il allez, fait allez, son allez, truc à la Ryan Gosling quand il
très sexy ce que tu fais là.
Voilà, oh, madame, s'il vous plaît, votre titre de transport.
Non,
là,
non.
S'il parle comme parle
Ryan Gosling. Je me suis déjà fait contrôler, c'était pas Ryan Gosling.
Mais justement, c'est ça que je vous dis. S'il était comme ça et que finalement, il se mettra à parler, parce que moi, je trouve que Ryan Gosling, c'est quand même 80% son charme qui joue.
50-50, je dirais quand même.
Moi, j'ai que c'est aussi son rôle dans The Place Beyond the Pine. Après,
là, c'est sûr qu'on est sur.
On est sur du 80%.
Mais non, il fait quand même partie de mon top 5. Hein.
Bravo, oh, bah, pas moi.
Voilà,
moi, non.
Ah, voilà, mais voilà. Alors,
non, mais Anna est très vindicative là-dessus.
Ah non, moi, ouais. Il fait pas du tout partie de mon top 5.
Ouais. Ça, oh, moi, il fait pas du tout partie de mon top 5.
Est-ce que j'ai eu cette.
Bon, j'adore Olivier Mine. J'aime beaucoup.
Olivier Mine.
Oh putain, Fort Boyard. J'étais pas prêt.
Olivier Chebedeau.
Ah, c'est vrai, c'est Fort Boyard.
Chebedeau.
Thierry Beccaro.
Thierry Beccaro, est-ce que c'est le top 1 de quelqu'un? C'est possible,
ah bah
hein
oui.
C'est possible.
C'est possible,
c'est
le top 1 de quelqu'un.
Je me dis souvent ça. De toute façon, ces gens, ils sont mariés, etc. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a regardé, qui a dit, putain, mais c'est lui.
Et ça, c'est l'esprit de Noël.
C'est ça que j'adore.
Ça, c'est l'esprit de Noël. Alors, figurez-vous qu'il est temps de déballer les cadeaux. Et les cadeaux en question, c'est des anecdotes croustillantes sur le film. Alors, comme il y a déjà eu un vidéo store sur Maman, j'ai raté l'avion 1, c'était un des tout premiers vidéo stores.
Je suis trop
content
que je l'ai pas vu. Ça veut dire que je vais pouvoir le voir ce soir.
Bah écoutez, je vais vous livrer des infos sur Maman, j'ai raté l'avion 2, celui qui se passe à New York et qui est tout aussi cool que le premier. Alors, j'ai mes petites fiches avec moi, des petites infos, ça va m'en trouver sur le net. Ce film comportait à l'époque un record. Macaulay Culkin devenait l'acteur le plus jeune à gagner autant d'argent avec un cachet de 4,5 millions de dollars pour reprendre le rôle de Kevin McAllister.
C'est un meilleur agent qui a pris les 10% là-dessus.
Aïe, 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 aïe. Mmh.
Elle a pris 80%, je crois.
C'était sa mère.
Oui, parce que Guillaume, tout à l'heure, tu avais une chronique sur les enfants stars. Ce qui arrive souvent avec les enfants stars, c'est que souvent les parents, ils.
Eh ben, la mère d'Edward Furlong, qui était partie à la base, donc il était sous tutelle de son oncle et sa tante, il a fait Terminator et elle a fait un procès à l'oncle et la tante pour récupérer la tutelle du fils.
Oh là là,
elle a fait une Eminem, quoi.
Comme par hasard. Durant ce tournage à New York, il faisait tellement froid que plusieurs caméras ont dû être remplacées car endommagées par les températures. Elles avaient gelé.
Ah ouais,
du coup, il y a plein de caméras qui ont été cassées durant le tournage parce que le premier, ils n'ont pas tourné dans des ambiances hiver, parce que souvent ça arrive de la fausse neige, etc.
Je parie sur un commentaire d'un mec qui va nous dire « Non, alors désolé, l'info sur les caméras est fausse, les caméras ne gèlent pas. » Donc ce n'est pas possible. Ça a été tourné avec des Panasonic, je le connais très bien.
Et pourtant.
Moi, j'ai l'impression qu'on nous cache la vérité et qu'en fait, c'est Macaulay Culkin qui était devenu une rockstar et qui pétait tout, en fait. À la fin du tournage, il pétait tout.
C'est possible, c'est une polémique qui lance.
Ah, c'est une polémique.
Ouais, c'est la polémique.
Mais parce que, d'ailleurs, je te coupe deux secondes, mais parce que je voudrais savoir, et je sais qu'après c'est fini, mais est-ce que vraiment il a pété un plomb à un moment donné dans la drogue et tout? Parce que moi, je l'ai vu dire vraiment. Mais en fait, c'est ce qu'est-ce qu'on fait, il était à deux mois, quoi, mais c'est pas vrai du tout.
J'ai eu une phase où il traînait avec Michael Jackson, quand même.
Il est tombé à fond dans la drogue.
Ah ouais?
Ah ouais, il a maigri de fou, etc. Et maintenant, il vit à Paris, d'ailleurs. Il a complètement arrêté. Il se consacre à son groupe qui s'appelle...
Attends, il vit à Paris?
Ouais.
Pizza Velvet, non? Non,
exactement. Ouais, c'est ça.
Pizza Underground. Est-ce que vous aviez vu cette vidéo? Il refait une vidéo de Andy Warhol. Non, où il mange un hamburger pendant genre une heure.
Non,
c'est une pizza. C'est une pizza. Ce que tu dis. Ah oui, bah ouais. j'ai mué en direct. Non, parce que je crois qu'Andy Warhol, à la base, c'est un hamburger qu'il mange et lui, il refait la même chose avec une pizza, il se filme face cam pendant quoi.
Mais ça, c'est à cause de son groupe Pizza Underground. Où ils ont repris toutes les paroles des Velvet Underground en les remplaçant par des pizzas.
On va mettre un extrait de Pizza Underground, voir ce que ça donne.
C'est parti. Il y avait aussi une époque où je crois qu'il sortait avec Myla Kunis, Macaulay Culkin.
Ah ouais,
ouais. Myla Kunis, ouais, exactement. Ouais.
Il était très beau à cette époque d'ailleurs.
Petite info people,
on aime ça.
C'est elle qui l'a largué.
Ah ouais.
Petite info people.
That's what she said.
Info perso que t'as à me raconter.
Ouais.
Alors.
J'ai des DM avec.
Vous vous souvenez du moment où Kevin McAllister commande une tonne de glace et de gâteaux dans sa chambre via le room service?
Trop stylé.
À votre avis, ça lui a coûté combien tout ça? Il faut savoir que dans le 2, il est dans l'hôtel, il utilise la carte bleue de son père, et là, il achète plein de glace. Il y a un mec qui ramène une sorte de chariot avec plein de glace, des gâteaux, etc. Il prend tout ce qui est possible sur le room service.
C'est au Plaza en plus, donc c'est méga.
C'est au Plaza en plus. Ouais. À votre avis, parce qu'on ne sait jamais finalement combien ça a coûté tout ça.
Ouais. Donc ça, c'est un juste prix là.
1400
non, en fait, en gros, il y a
tu
des...
Tu dis plus ou moins? C'est plus.
Ouais, je veux dire plus ou moins. En gros, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches en fonction des prix de l'époque du Plaza.
Oh là là,
ils ont regardé sur l'écran tout ce qu'il a pris et ils ont calculé sur la brochure du Plaza combien ça avait coûté.
Donc on parle en dollars.
On parle en dollars. Alors, Guillaume, première estimation.
Ah, vas-y.
Excusez-moi, il vient de jouir.
Oui, aïe, j'ai eu une petite absence. 1117 $ 30.
Aurélien?
Plus ou moins, tu dis?
Non, en fait, c'est celui qui se rend à pencher le plus.
1347,42 $.
Comme par hasard.
Laura?
4822 $.
Aïe!
Pour des glaces, ça fait mal au cul.
C'est
Anna?
Pas de ça. C'est pas de ça.
1857 $. et 28 centimes.
Ok, ça ne servait à rien car c'est Guillaume le grand gagnant.
Putain!
Figurez-vous qu'il en a eu pour 967 $.
C'est extravagant.
Mais attends, vas-y, toi qui es l'expert, pour combien il en a dans l'épisode 1 de pizza au début?
Eh bien, je vais te le dire, $32.77.
Absolument pas.
Ah ouais, bah écoute, j'ai vérifié mes sources. C'est pas vrai,
il m'a fait douter. Non, il en a pour $20, je crois.
Ah ouais.
$20. Ouais, il a genre 12 pizzas.
Excuse-moi, Jibou, t'as fait les cours Florent?
Non, $120.
J'ai fait les cours Florian. C'est à Sergi Pontoise. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Florian.
Il fait des cours Gaëtan. C'était sur 6 mois.
C'est un pote.
Alors, le film s'intitule « Maman, j'ai raté l'avion 2 » en France et « Home Alone 2 » aux États-Unis. Mais au départ, il devait s'appeler « Alone Again ». Sauf que le réalisateur...
C'est horrible.
Ouais, « Alone Again ». Sauf que le réalisateur Chris Columbus s'est dit... Non, les gens vont croire que c'est un remake, ou pire, ils vont croire que c'est un autre film. Donc en fait, ils avaient besoin de capitaliser sur le Home Alone ou sur le titre du premier, quoi.
Exact.
Sinon, c'est le fiasco, sinon. Ouais. Alors, c'est là, j'avais jamais pensé, mais maintenant, ça me paraît évident. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 2, Kevin McAllister utilise un clown gonflable qu'il fait danser sous la douche pour faire croire qu'il y a son père avec lui dans la chambre.
C'est tellement souvenir que tu viens de faire jaillir en moi.
T'as vu comment je l'ai bien expliqué? Du coup,
c'est génial.
S'ils ont choisi le clown, c'est pas pour rien.
Il est revenu.
C'est pour un clin d'œil, car dans ce film, il y a Tim Curry qui jouait le clown dans ça.
Trop bien.
C'était vraiment stylé.
Trop bien.
Et en fait, du coup, ce clown qu'on peut voir dans le film, c'est un petit clin d'œil à Tim Curry.
D'accord.
Trop bien. Bravo.
Ça vous a régalé cette info?
Je le sens.
Un régal.
Et enfin, mon anecdote préférée, elle vient de Joe Pesci lui-même, qui après la sortie du 2.
Prothésiste dentaire, Joe Pesci, on se rappelle bien de lui.
Prothésiste de la barbe,
Info qui vient de Joe Pesci, qui expliquait en interview qu'il lui arrivait souvent de se faire arrêter par des enfants après le film, qui lui donnaient leurs adresses, les enfants donnaient leurs adresses dans l'espoir de se faire cambrioler par lui.
Ils sont sérieux, les gars?
Ouais, trop bien. En fait, il expliquait qu'il y avait plein
de
petits.
Jamais de la vie, moi, je donne mon adresse, elle lui me faisait trop flipper. Hein.
Ouais, mais c'est drôle.
C'est drôle.
Les types, ils le voient dans la rue, voilà, j'habite là, tu peux venir.
Mais est-ce qu'il y allait?
Ouais. Ah, c'est étonnant quand même, parce que souvent les méchants, je me rappelle du mec de Game of Thrones, là, Geoffrey, qui faisait le roi un peu con et tout, il disait que c'était... un mec de Prison Break, qui violait des gars.
T-Bag,
il disait, mais je peux plus jamais sortir sans que les mères de famille...
C'est une source vérifiée.
Oui, c'est pas pareil.
Parce que j'avais lu un interview, peut-être qu'on a lu le même, où en gros, T-Bag, enfin le mec qui joue T-Bag là... Et c'est vrai que son rôle, il était effrayant dans Prison Break.
Il était génial, ce mec, en
d'ailleurs. Il expliquait que quand il était... Un jour, il était dans
un ascenseur.
On a eu la même info. Un jour, il était dans un ascenseur. Tu pourrais faire TAPS, toi?
On est la même personne.
Bah oui. Un jour, il était dans un ascenseur et il y a une meuf à côté de lui qui était en stress
de ouf.
Parce qu'elle, voyait T-Bag, en fait, alors que c'était juste l'acteur. Et quand t'arrives à faire ça, c'est que t'es un très bon acteur.
Ou que t'es flippant.
Bon.
En même temps, je sais pas si on est des bons acteurs, mais il y a des gens qui pensent qu'on travaille dans un vidéoclub.
Ou c'est un très bon acteur, ou les gens sont un peu cons.
On joue très bien la comédie dans Vidéosense. Il y a plein de gens qui le disent. Et donc, c'est à quelle heure vos horaires de vidéoclub? Vous êtes employé là-bas?
Par contre, excusez-moi, mais j'adorerais que ce soit vrai.
Vous avez Waterworld?
Probablement. En fait, bon, faux.
Ce serait génial.
Enfin bref. Voilà, c'est malheureusement déjà la fin. De ce podcast qui voulait vous dire. C'est comme ça. La magie de Noël se termine. Laura, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive?
De la thune.
Max de thune.
Sincèrement, moi, je survivre déjà, ce serait bien.
Ouais, c'est bien.
Dans cette jungle.
Magie de Noël.
C'est Ivy comme réponse.
Et un coussin chauffant.
Non, mais tu ne crois pas si bien dire que j'en ai recommandé un parce que l'autre m'a lâché.
Ouais, et sachez que pour son anniversaire l'an dernier, elle a eu un aspirateur.
Ah ouais, mais excusez-moi, voilà. On ne dit pas un aspirateur, d'accord? Je vais appeler Martine.
Mais je tiens aussi à préciser que c'était son choix le plus... Son souhait le plus...
Ah, c'était mon souhait le plus cher, c'était d'avoir un Dyson. Et je vous assure que ça change la vie.
Guillaume, c'est ton anniversaire dans quelques jours, que je t'offre un aspirateur ou pas?
J'en ai déjà un, malheureusement. Ah, mais
un balai?
Pourquoi pas?
tu verras, tu fais le malin, mais devant Home Alone avec tes petits popis, là.
Bah, malheureusement, j'ai pas de problème de colon, je sais pas si... Ça a été précisé au début, je me permets. En tout cas, je te souhaite que ça aille mieux cette année, si c'est ça qu'il faut te souhaiter.
C'est plutôt une porosité intestinale que le côlon en lui-même.
Et toi, Anna, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine?
Moi, tu peux me souhaiter un max de thunes, moi, ça me va.
Un max de thunes, ça fait plaisir à tout le monde, en général.
Ça me va bien. Ouais. Et puis de jouer avec Joe
Pesci.
Pesci, allez là.
Aurélien, Joe Pesci ou Joe Pesci?
Je pense qu'on dit Pesci, mais Pesci, plus poisson.
Mais moi, j'ai entendu plein de gens dire Joe Pesci.
Non, on dit Pesci.
Pesci.
On dit pas les sciences naturelles. On dit pas les sciences naturelles. On dit les sciences naturelles.
Mais là, c'est un américain.
Pesci. Tu dis Pesci.
Écoute.
Pesci, ouais, Joe Pesci.
Joe Pesci, ouais.
Alors, pour le prochain podcast qui arrivera en janvier, c'est à moi de choisir le prochain film. Et je suis donc allé sur le Cinématcheur et j'ai cliqué sur À la maison, bidonné. Heureux, comme toi, j'aime bien être bidonné comme moi.
J'adore.
Bidonné. Heureux, Europe, années 90, et voici mes trois indices pour le prochain film. On n'a pas le droit de donner la réponse sur le plateau. C'est Foot, Chien et Joe Star. Voilà, ce sont mes trois indices.
Ah bah oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Je le dis pas, mais je l'ai.
Hein. Ah ouais.
Eh ben oui, bien sûr.
Pas moi.
C'est donc la fin de ce podcast et avec Guillaume et Aurélien, on vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et on tient à vous dire
joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous, que la magie de Noël vous accompagne.
Et on tient à vous dire que notre plus beau cadeau, c'est vos retours gentils sur le podcast.
Oh, hein, oui.
Que ce soit sur Insta, Twitter, Facebook, YouTube. Mais je tiens à dire quand même que j'ai fait une liste de cadeaux à ma mère et je tiens quand même à les avoir. Ce cadeau est cool, mais bon.
Je vois qu'en plus, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait bien plaisir.
Ça fait très plaisir.
Superbe.
Laura, Anna, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui.
On était très heureux.
Très contente, merci beaucoup.
Et puis on va tous fêter Noël ensemble après ce podcast. Hein.
Ah ouais, vous m'invitez.
Les gens croient ça en fait.
Vous m'invitez ou pas? Parce que moi j'ai toujours personne.
Allez,
avec
on t'invite.
Allez,
on t'invite. On se retrouve en janvier pour un prochain podcast. Ciao à tous.
Ciao.
Ciao.
Bye.